Que je vous souhaite une fois de plus la bienvenue, tout particulièrement aux membres de la Société d'Histoire qui sont associés à cette série de quatre conférences qu'Henri Gounard vient de nous donner. Il s'agit donc de la dernière de ces quatre conférences qui sera consacrée aux événements de 1940, notamment du côté français. Et c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Henri Gounard. C'est l'objet de ses recherches actuelles et il m'a dit tout à l'heure qu'il était en train de préparer un livre sur cette période. À propos de livres, je vous signale que nous avons toujours un échantillonnage assez complet des publications historiques d'Henri Dumain. Vous pouvez les regarder à la sortie et je crois qu'Henri Dumain vous les dédicacera si vous le demandez. Autre chose, la séance d'aujourd'hui se prolongera quelque peu puisque, comme vous l'avez annoncé, l'exposé d'Henri Dumain sera suivi d'un petit débat, enfin d'une partie question si vous voulez. Donc vous pourrez lui poser des questions qui vous viennent à l'esprit, qui sont venues à l'esprit à propos de n'importe laquelle des quatre conférences. Je vous rappelle qu'elles ont porté successivement sur la Révolution française, les événements de 1848, la Commune et puis ce soir les événements de 1940. Ainsi terminera ce petit cours. Je pense que nous allons le prolonger dans le domaine de l'histoire contemporaine, donc par d'autres conférences. Et puis d'autre part, nous avons un projet qui, j'espère, se réalisera cette saison encore, c'est d'entendre Henri Dumain nous parler du problème religieux. Et nous avons un petit projet là, mais enfin, on cachera de toute manière dans la seconde partie de la saison. Et vous recevrez des informations suffisamment tôt à ce propos. Là, je vous souhaite une bonne soirée et je donne la parole à
Marie. Merci bien. Là, ce sujet difficile que je vais traiter devant vous, et il est très difficile aux Français que je suis de rester, je ne dis pas objectif, mais impassible, dans une histoire aussi affreuse que celle que je vais vous présenter. J'appellerai ça, si vous voulez bien, une hypothèse de travail. Je crois que l'histoire officielle, dans quelques années, ratifiera mon hypothèse de travail. Je voudrais partir du 17 avril 1934. C'est une date que vous ignorez, qu'on ignore généralement, et qui pourtant, dans la politique extérieure française, a une très grande importance. Qu'est-ce qui s'est donc passé le 17 avril 1934? Ben, lui, des affaires étrangères, c'était Louis Barthou. Que je connaissais, vous savez, c'est un collectionneur, j'ai été travailler chez lui pour des papiers sur la Martinique. Il était ministre des Affaires étrangères et dans cette note qu'il envoie à toutes les chancelleries, c'est-à-dire à tous les postes diplomatiques français, ce 17 avril 34, il indique dans des termes plus couverts que ce que je vais vous dire, enfin, c'est nettement ceci. Depuis Wilson, enfin depuis 1919, on avait essayé, ou fait semblant d'essayer, d'établir une nouvelle politique dans les rapports internationaux. À savoir, comme on parlait de sécurité collective, d'arbitrage obligatoire, enfin les fameuses idées du plan Wilson, qui pratiquement n'avaient guère et de réalité. Même la Société des Nations s'était couverte de honte en 1931, lorsqu'il y avait eu une agression entre deux membres, le Japon qui se jetait contre la Chine, et la Société des Nations était restée parfaitement immobile. Alors M. Barthou en prenait texte pour dire, eh bien c'est fini, quoi. On ne peut pas continuer à essayer ou à faire semblant d'essayer de refaire une nouvelle politique internationale basée sur ces principes. Il faut revenir à l'ancienne politique internationale, celle d'avant 1914, c'est-à-dire la politique des pactes bilatéraux, quoi. Chacun se débrouillera comme il peut. Vous savez sans doute que depuis septembre 33, Hitler qui a pris le pouvoir en janvier 33. En septembre 33, Hitler s'était retiré, enfin avait retiré l'Allemagne de la Société des Nations. Il était évident qu'il faisait un gros effort d'armement. Nous n'avions pas les alliés, enfin les anciens alliés. Il ne semblait pas avoir les moyens d'empêcher Hitler de réarmer. Alors Barthou en tirait la conclusion que voici, eh bien, puisqu'on ne peut pas empêcher l'Allemagne de réarmer, que chacun se tire d'affaire comme il le pourra, chacun assurera sa défense nationale comme il l'entend. C'est donc un grand tournant de la politique française, c'était la reconnaissance qu'une certaine tentative était ratée et qu'il fallait en revenir à la politique d'avant-guerre. Quelle était donc cette politique d'avant-guerre? Vous le savez bien. On avait essayé de dissuader, c'est un mot qui n'était pas encore à la main, de dissuader l'Allemagne et Guillaume de l'attaquer en la prenant dans une pince. Il y avait d'un côté, depuis 1903, quoi, l'entente franco-cordiale, quoi, le bloc franco-anglais. Ça, c'était la menace allemande du côté de l'Ouest. Et puis il y avait l'Empire russe de l'autre côté, puis il y avait César, quoi. L'alliance qui s'était faite complètement en 1907, lorsque Édouard VII est allé voir le Tsar, on avait donc, en principe, un bloc puissant. Il fallait deux pinces latonales, quoi, la pince ouest et la pince est, qui devaient tenir en respect l'Allemagne de Guillaume. Je n'ai pas le temps, et c'est pas mon sujet, d'indiquer comment s'était déroulée la guerre de 1914, où on peut dire que cette pince ne s'était pas bornée à être défensive, mais que du côté russe en particulier avait été offensive. Ça, toujours est-il, c'était le moyen qu'on estimait de pouvoir tenir à l'Allemagne en respect. Bon, alors maintenant, avec une Allemagne dangereuse, avec Hitler, Louis Barthou en concluait, il faut revenir à cette politique, et c'est pourquoi Louis Barthou, ben lui-même, si peu premier ministre qu'il fût, il était passionnément conservateur, fait rentrer l'URSS à l'Assemblée des Nations, qui déplaît un certain nombre de Français, mais afin de s'appuyer sur l'URSS, puisqu'il faut revenir à la vieille politique d'un bloc franco-anglais d'un côté et de la Russie de l'autre. Je sais bien que cette Russie, ça fait maintenant non plus la Russie des armes, mais la Russie des soviets, et comme vous allez le voir, beaucoup de gens en France ne voulaient pas admettre qu'on puisse serrer la main des Russes, même militairement. Alors nous allons voir comment les nationalistes français et les responsables de la politique extérieure française vont se comporter dans l'application de cette politique qui a été recommandée par Louis Barthou et qui semble en effet la seule politique raisonnable si on voulait en revenir à l'avant-guerre. C'est là qu'il faut que je vous explique un peu ce qui se passe dans la politique intérieure française. Car je crois bien que dans mon tout premier cours, à mon second, je vous ai indiqué comment les rapports sont très souvent étroits, alors qu'on les prétend invisibles, entre la politique intérieure et la politique extérieure des États. Mais il s'était passé quelque chose d'assez grave en France, c'est-à-dire l'apparition de l'antiparlementarisme. Remontant assez loin pour comprendre ce qui s'était passé, je ne me rappelle pas vous avoir indiqué la théorie qu'avait développée M. Thiers en 1871. Thiers, qui était un royaliste, dans une chambre de royalistes, composée de royalistes, l'assemblée du 8 février 1871 comportait 700 membres, 750 membres, il y en avait 600 qui étaient royalistes, mais des royalistes de diverses obédiences. Il y avait d'un côté les légitimistes, qui soutenaient les Bourbons, de l'autre côté les orléanistes, qui soutenaient les Orléans, néanmoins c'était des royalistes. Et Thiers leur disait, Thiers n'était pas tellement royaliste, il était plus thiériste, quoi. Alors Thiers disait, vous êtes tous persuadés, comme je l'ai été, tous persuadés, que le système monarchique est le meilleur pour la protection de ce qui nous importe, c'est-à-dire la fortune acquise. Vous vous trompez, disait M. Thiers, j'ai bien réfléchi. Dites-vous bien que dans une monarchie, du moins en principe, c'est un seul homme, la volonté d'un seul, le roi qui gouverne, c'est une volonté extrêmement vulnérable. Parce que les sujets peuvent se révolter au nom de la liberté, et quel sera l'argument du roi, sinon un argument de violence. Tandis, disait-il, tandis que si nous avons la République, qu'est-ce que la République ? La République, c'est paraît-il le régime de la volonté nationale. Donc c'est la liberté qui gouverne. Mais pratiquement, qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale ? C'est la majorité du suffrage universel. Il suffit de la moitié plus un pour que ça s'appelle la volonté nationale. Toujours est-il que dans une République, le pouvoir est en principe invulnérable, puisqu'il est l'expression de la volonté nationale, la volonté de la majorité des citoyens. Il est donc beaucoup moins vulnérable que l'est un régime monarchique. Et si nous arrivons, disait M. Thiers, à bien diriger le suffrage universel, de telle manière qu'il soit conservateur, vous voyez à quel point le pouvoir est renforcé dans ce qu'il a pour nous d'essentiel, c'est-à-dire la protection de la fortune acquise. Et Thiers disait, mais regardez ce qui s'est passé, vous avez deux preuves admirables de la véracité de ce que je vous dis. Les deux fois qu'on a au cours du 19e siècle consulté le suffrage universel, 23 avril 1848 et 8 février 1871, les deux fois le suffrage universel, bien dirigé par les notables, et dans une France rurale et aux trois quarts analphabète, les deux fois le suffrage universel nous a donné une majorité conservatrice remarquable. Prodigieuse majorité conservatrice qui va balancer Lamartine en quelques semaines en 1848, et magnifique réunion majorité conservatrice que vous êtes en train d'observer sous vos yeux, puisque nous sommes 600 royalistes contre 150 républicains. Vous voyez donc l'efficacité admirable du suffrage universel. Ça, ça marchait bien tant que le suffrage universel était docile. Or, une première fois, il avait été cruellement indocile en mai 1914. En mai 1914, pour la première fois, on avait eu 103 socialistes à la Chambre française, qui semblait une chose effroyable, et les socialistes aidés des radicaux avaient la majorité. C'était donc la première fois que ce n'était plus l'ancien centre-gauche, créé par M. Thiers, qui s'appelait républicain, mais qui était avant tout conservateur. La première fois que ce centre-gauche, que représentait alors M. Poincaré, n'avait plus la majorité. Et le problème qui s'était posé à ce moment-là était le problème fiscal surtout, le problème de l'impôt sur le revenu. Donc vous n'imaginez pas quelle terreur se répandait dans la classe possédante. On avait écarté systématiquement et habilement l'impôt sur le revenu depuis 1871. Je me rappelle encore le 20 février 1971, j'ai lu ça dans le journal officiel, le 20 février 1971. La France ayant été condamnée, vous le savez, à payer une forte indemnité à l'Allemagne, 5 milliards, c'était considérable à l'époque, un député de gauche avait dit, eh bien, pour faire face à cette à cette dette, il faut établir l'impôt sur la Russie. Alors M. Thiers, qui avait le pouvoir, avait bondi de son banc et avait dit jamais, jamais, tant que je serai là, il n'y aura jamais d'impôt sur le revenu, c'est le viol du secret des fortunes, le viol des secrets des fortunes, il a dit. En 1895, un gouvernement bourgeois très conservateur du reste, un gouvernement radical, présidé par un monsieur Léon Bourgeois, qui était en effet un bourgeois, avait annoncé de nouveau un projet d'impôt sur le revenu. Alors cette fois, c'était ce jeune député qui s'appelait Poincaré, et qui va se créer ce jour-là une grande notoriété, qui va faire 5 discours, pas seulement un, mais 5 discours torrentiels contre l'impôt sur le revenu, reprenant les formules de M. Thiers en les améliorant. Thiers parlait du viol des fortunes, le secret des fortunes privées, et lui dira une odieuse, inadmissible pénétration de l'État dans les fortunes privées. Toujours dit qu'en 1914, le problème est très grave, une chambre indocile, des gens qui vont voter l'impôt sur le revenu. Il est voté, le 2 juillet 1914. Mais entre le vote d'une loi et l'application d'une loi, il peut arriver des événements. Et il est arrivé la guerre, précisément. Et l'impôt sur le revenu qui a été voté ne sera pas appliqué en 1914, ne sera pas appliqué non plus en 1915. On aura tout de même gagné 2 ans. C'est parce que la guerre va traîner jusqu'en 1916 qu'il sera très, très, très modestement appliqué pour la première fois. Mais à ce propos, il faut que je vous signale une lettre, une phrase très imprudente d'un général bavard, qui s'appelait général Revillot, et qui, le 13 décembre 1914, dans un journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, va risquer l'affirmation que voici, et qui était, j'aurais fait bien imprudente, au printemps. La situation était perdue. Il ne donne pas d'explication, mais tout le monde sait que c'est perdu à cause des socialistes. Par bonheur, écrit-il, la Providence inspira à l'empereur Guillaume II l'idée de nous attaquer. Alors bon, la guerre avait tout sauvé. Ça, c'était pour 1914. Voilà que le suffrage universel, qui avait été très gentil en 1919 grâce au bloc national, c'est indiqué que c'est le véritable patriote qui dirigeait la France. Et là, ce suffrage redevient inconvenant en 1924. Voilà qu'en 1924, pour la seconde fois, ce suffrage universel a mené une majorité de gauche à la Chambre. La Banque de France va organiser elle-même une insurrection bancaire, c'est-à-dire qu'on va fuir les capitaux, et le pauvre monsieur Alliot, qui du reste était en caoutchouc, peint en gris fer, vous savez, c'était un rocher, mais un rocher en plâtre. Alors monsieur Herriot va rapidement être débarqué, et c'est Poincaré de nouveau qui va reprendre le pouvoir. Mais c'était la seconde fois que le public, le suffrage universel, se conduisait mal, et se montrait inductible. Voilà qu'en 1932, pour la troisième fois, le suffrage universel envoie encore une majorité de gauche. Alors les mêmes gens, qui à partir de 1871, avaient dit, c'était pas ça le suffrage universel, ça nous donne tout pouvoir, parce que c'est la volonté nationale elle-même qui se prononce dans notre sens, ces mêmes gens qui avaient vanté les vertus du suffrage universel, ces mêmes gens qui s'étaient par 2 fois opposés à un putsch militaire, en 1889 avec le général Boulanger, en 1899 avec le général Roget, la France avait frôlé un putsch militaire à ce moment-là, le 23 février 1999, au moment des funérailles nationales, bien sûr, du président de la République, à cause de la concentration de troupes dans Paris pour des funérailles nationales, 3 généraux avaient dit, bon, on marchera sur l'Élysée. Ils ont pris peur, ils ne l'ont pas fait. Et le centre gauche, le centre conservateur, avec l'Al des Grosseaux, avait organisé la défense républicaine. Pourquoi? Parce que les conservateurs se disaient, il vaut beaucoup mieux une république qui est en fait une oligarchie bancaire, où le gouvernement de l'argent, la domination de l'argent est occulte, il vaut beaucoup mieux ça qu'un régime nu, un régime dictatorial, où la domination de l'argent sera tout évidemment visible. Alors on avait donc du côté du centre, gauche, du conservateur, on avait donc préféré le suffrage universel. Mais à partir de 1932, ça change. Parce que voilà trois fois que le suffrage universel envoie la majorité de gauche. Alors on voit se développer dans mon pays un très vigoureux anti-parlementarisme. On voit les ligues qui s'étaient créées autrefois, mais qui étaient avec la Ligue d'Action Française de 1908, mais qui avaient très peu d'efficacité dans la foule. Voilà la Ligue d'Action Française qui devient considérable. Voici les jeunesses patriotes, créées en 1924, qui mordent sur la jeunesse intellectuelle. Voici la Solidarité Française de M. Coty, qui était le parfumeur qui possédait le Figaro. Voici le redressement français d'un électricien, enfin je veux dire du PDG de l'industrie qui s'appelait Mercier. Voici les croix de feu de Larocque. Enfin, des ligues s'organisent contre le système républicain, appuyé par 3 hebdomadaires, dont le tirage était considérable et qui avait au minimum 2 millions de lecteurs par semaine, ces 3 hebdomadaires s'appelant Candide, Gringoire, Je suis partout, et tous les 3 anti-parlementaires. On en arrive même au point que le 6 février 1934, et nous rapprochons notre date, puisque je suis parti du 17 avril, hein, le 6 février 1934, une émeute énorme, la première grande émeute distingué, une émeute de bonne compagnie qui se produit à Paris. On avait déjà vu des émeutes ouvrières, mais on n'avait jamais vu des honnêtes gens qui définissaient eux-mêmes comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes des honnêtes gens, M. Henri Bordeaux parlait de la révolution des honnêtes gens dans les côtes de Paris. Honnêtes gens égale gens de bien égale gens qui ont du bien. Enfin, honnêtes gens égale possédants. Et bien c'était la révolution des honnêtes gens du 6 février 1934 qui avait failli renverser la République. Pendant tout le mois de janvier 1934, l'Action française annonçait jour par jour « Abat la République, abat les voleurs !» Parce que la République était confondue à ce moment-là avec Stavitsky, que Stavitsky avait en effet quatre complices radicaux, alors que dans l'affaire Oustrick, qui était de 1931, beaucoup plus de parlementaires avaient été compromis, mais c'était des parlementaires de droite, ça n'avait rien dit. Alors le 6 février 1934, émeute 40 000 hommes environ sur la place de la Concorde, et à 6h30, à 18h30, si les croix de feu qui arrivaient par derrière, c'est-à-dire par la place de Bourgogne, avaient continué à avancer, la chambre était envahie et la République était parfaite. Or à 18h35, la Roque donne l'ordre à ses croix de feu de rebrousser chemin, de ne pas rentrer dans la chambre. Pourquoi? Parce que M. Laroque ne voulait pas travailler au profit de M. Maurras, parce que M. Maurras ne voulait pas travailler au profit de M. Laroque, parce qu'il y a eu faute d'entente entre les conjurés. Maurice Pujot, qui était le bras droit dans l'action de Maurras, écrira dans la Revue Universelle en 1938 la vérité des choses. Il dit, même si nous avions triomphé, même si nous avions occupé la chambre et renversé la République, les dissentiments entre nous n'auraient pas tardé à paraître, car nous n'étions pas tous du même avis, et surtout nous n'avions pas d'homme. Personne n'était là à la tête qui ferait l'unanimité autour, enfin l'unanimité de droite autour de lui. Il y avait bien le 7 février au matin, le vieux Lyautey qui s'était proposé. Mais il est trop vieux, il va mourir cette année 1934, il était très chancelant, et on pensait que son prestige avait décru et qu'il n'était pas satisfaisant pour faire l'homme bélier, enfin l'homme qui renversait la République et autour duquel on pourrait se grouper. Toujours est-il que vous voyez l'état d'esprit d'une partie de la France en 1934, ce violent anti-parlementarisme. Autre chose, mais qui se rattache directement à ce que je vais vous dire. Quand j'avais 20 ans, en 1923, je croyais, avec une très grande naïveté, qu'un conservateur français était viscéralement et fondamentalement un nationaliste, un chauvin, un super-patriote. Je croyais ça parce que ce que je voyais autour de moi. Et je savais que depuis des années, c'était comme ça. Que les conservateurs français passaient pour les véritables patriotes, tandis que c'est la gauche, c'était des gens qui n'étaient évidemment patriotes. Exemple Jaurès. Eh bien, ce sont mes études sur 1870 qui m'ont montré que j'étais victime d'une illusion comme beaucoup de mes contemporains. Car si les nationalistes, si les conservateurs français, si la droite française étaient en effet super tricolores vers les années où je vous parle, 1923, ce n'était qu'un avatar chez les conservateurs français. Un avatar, je veux dire que c'était un costume, c'était un travestissement qu'ils avaient adopté depuis un certain nombre d'années, je vais vous dire quand, mais qui ne correspondait absolument pas à ce qu'ils avaient été à l'origine, c'est-à-dire au début de la République. Je vous l'ai dit la dernière fois à propos de la Commune. Lorsque la République reparaît pour la première fois, enfin, c'est la troisième fois, je veux dire, avec le 4 septembre 1870, et que l'Empire est remplacé par la République, tous les notables, mettons à 99%, tous les notables français qui jusqu'alors avaient appuyé l'idée de la guerre, se détournent de cette guerre, puisque ce n'est plus l'Empire qui l'amène, mais ça va être la République. On sait très bien ce que sont les vœux des Allemands, je vous le rappelais. Les Allemands avaient dit, nous voulons deux provinces françaises, l'Alsace et la Lorraine. Ben, les conservateurs français s'étaient dit, ils avaient dit ouvertement, et Thiers le disait clairement. Évidemment, c'est très triste de perdre deux provinces, mais ce serait infiniment plus dangereux d'avoir une république qui serait une république victorieuse, en dépliant le mot de république contre le socialisme, et c'est la fortunative qui va se trouver menacée. Donc, soyons capitulaires. Il faut savoir que la droite française, c'est le mot employé Bismarck, a été capitularde dès 1870 en disant la paix tout de suite. Que les Allemands prennent ce qu'ils veulent nous prendre, mais surtout pas la République. Et ça va durer bien plus longtemps que je ne croyais. Il y avait un mot traditionnel sur l'extrême droite qui était la République c'est la guerre. Et bien en 1885 encore, Castagnac, qui était le leader bonapartiste de l'extrême droite, c'est-à-dire à ce moment-là l'extrême droite était surtout bonapartiste plus qu'en royaliste. Castagnac, en juillet 1885, alors que Jules Ferry est à la tribune et parle des conquêtes militaires que la France doit faire, au risque de se battre visible avec la Chine au nord du Tonkin, Castagnac pousse le cri habituel « La République, c'est la guerre !» C'est justement le tournant maintenant. Nous sommes 86-87, à ce moment-là que la droite va découvrir la vertu du chauvinisme, qu'elle avait jusqu'alors ignorée. Elle en laissait le monopole aux gambettistes, enfin aux gens qui représentaient la résistance républicaine de 70. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire de Boulanger, dont je crois vous avoir parlé. Général Boulanger, qui était ministre de la guerre en 86, qui au début avait fait le républicain d'extrême gauche, qui avait un slogan qui plaisait à la foule, les curés sac au dos, ça veut dire quoi? Jusqu'alors, les normaliens et les séminaristes ne faisaient pas de service militaire, ce qui était injuste. Alors Boulanger avait dit, il faut que tout le monde fasse un service militaire, les curés comme les autres. Ça plaisait, ce slogan des curés sacodo. D'autre part, il était très familier avec la troupe, parce qu'il acceptait d'aller manger la soupe parfois dans les casernes, mais enfin, une grosse réputation d'honnête homme, quoi. Seulement, on s'était aperçu assez vite qu'il avait des liens avec les Césariens, et qu'il se préparait à renverser la République. Alors les Césariens, les gens de droite, les gens d'une République autoritaire, ou même de pas de République du tout, se disaient, mais la popularité énorme de Boulanger prouve qu'il y a quelque chose à faire auprès de la masse, auprès du populo, comme il disait lui-même, du côté du nationalisme. Ça rend le chauvinisme. On voit que les Français, ils mordent. Nous avons été, nous, à droite, les fameux défenseurs de la religion, des défenseurs qui ne croyaient pas d'ailleurs, mais enfin, ils faisaient leur fameux cléricalisme incroyant, qui a eu tant de succès avec un monsieur comme Maurras, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, la défense de la religion, vous savez, ça rend moins. Parce qu'il y a déjà une déchristianisation sérieuse en France, alors défendre la religion n'est pas très rentable. Tandis que défendre à la fois la religion et la patrie, ça, c'est terrible. Alors, à partir de 1888-89, les conservateurs français deviennent nationalistes, ce qui n'était pas du tout précédemment. Et ça va durer 500 ans. Et maintenant, nous sommes en 1934-35, au moment où, de nouveau, les nationalistes vont changer de peau, et eux, qui étaient tellement bellicistes, et qui avaient piétiné l'Allemagne de Weimar, et qui avaient craché la figure en disant que c'était des abominables guerres vengeurs, à ce moment-là, nos nationalistes français vont être les plus conciliants qui soient, les ennemis les plus déclarés de toute guerre, parce qu'une guerre qui se battrait, qui conduirait à la France à se battre contre le fascisme en Italie depuis 1922, ou contre l'hitlérisme en Allemagne depuis 1933, serait une guerre suicidaire pour la bonne cause. Ils regardaient les nationalistes français, les conservateurs français, qui s'intitulaient eux-mêmes du reste les nationaux maintenant, comme si tout ce qui n'était pas eux n'était pas national. Ces conservateurs français ne voulaient à aucun prix que la France fût engagée dans une affaire militaire contre l'Italie et contre l'Allemagne, puisque l'Italie et l'Allemagne représentaient des régimes sérieux, plein d'espoir, donnant grand espoir aux conservateurs français qui espéraient établir un régime à peu près semblable, sinon salazarien peut-être, en France. Alors, nous allons regarder ensemble comment la droite française, comment les conservateurs français, qui imaginaient s'appeler nationaux, je viens de vous le dire, vont se comporter devant le programme que leur propose un conservateur, mais un conservateur fidèlement patriote qui s'appelle M. Louis Barthou, et qui leur dit, si vous voulez protéger la France contre la menace hitlérienne, il faut une jonction puissante et bien ferme et bien solide entre la France et l'Angleterre, et il faut, quel que soit le régime des Russes, obtenir que les Russes fassent ceci à nous pour lutter contre Hitler. Ça doit être facile, disait M. Louis Barthou, car les Russes ont lu Mein Kampf, Staline l'a regardé de près, et il a vu que Mein Kampf annonçait premièrement qu'Hitler reconquérerait de force, par tous les moyens, mais reconquérerait l'Alsace-Lorraine, car la France est notre ennemi mortel, écrivait Hitler en 1924, et quant à la Russie, il annonçait clairement dans son Mein Kampf le Lebensraum allemand, c'est l'espoir vital de l'Allemagne, et du côté de la Russie. Donc nous avions la chance d'avoir un monsieur qui en Allemagne avait annoncé la couleur, avec qui je me jetterai sur les Français et je me jetterai sur les Russes. Il semblait donc indiquer que les Franco-Anglais d'une part et les Russes d'autre part se tassent les coudes pour essayer de dissuader Hitler d'attaquer. Alors qu'est-ce que nous allons voir? Voilà qu'en 1935, l'Italie, intouchable, puisque les fascistes, l'Italie se jette sur l'Éthiopie. C'était deux membres de la Sous-Génération qui le battaient. Je vous ai rappelé tout à l'heure, honnêtement, que la Sous-Génération s'était montrée nulle en 1931 dans l'agression, au moment de l'agression du Japon contre la Chine. Ce n'est pas une raison parce qu'on s'est trompé une fois et qu'on a manqué une fois son devoir pour recommencer. Et la Sous-Génération a l'intention cette fois de bouger et d'appliquer le pacte. Ce pacte comporte des sanctions économiques contre tout membre de la Sous-Génération qui en attaquerait un autre. Ajoutons, car il faut tout dire, je veux que l'Angleterre, à ce moment-là, est extrêmement ardente pour la défense de la Sous-Génération, c'est parce que les forces unies sont menacées. Tant que la destinée était entre l'Éthiopie, enfin, est entre les mains d'un aigu sur son importance, c'est pas grave. Mais si c'est une nation européenne, l'Italie, qui s'occupe, qui occupe l'Éthiopie et par conséquent les forces unies, cette fois ça n'allait plus. Alors les Anglais apportaient une grande passion à défendre les idées de la Sous-Génération et disaient qu'il faut appliquer des sanctions à l'Italie. La France se coupe en deux. Si la gauche dit oui, il faut appliquer des sanctions à l'Italie, la droite dit alors pas question, on ne va pas toucher à M. Mussolini. Et on va voir à ce moment-là un manifeste, ça s'appelle Manifeste des intellectuels, Manifeste des intellectuels pour la défense de l'Occident. Vous trouvez dans ce manifeste 10, je crois, ou 15, je ne me rappelle plus, académiciens, vous y voyez Henri Bourdeau, bien entendu, vous avez Abel Bonnard, vous y voyez de jeunes écrivains qui s'appelaient Thierry Mounier, qui s'appelait Brasignac, vous y voyez même un philosophe qui vient de mourir il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Gabriel Marcel. Enfin, tout ce qui comptait dans l'intelligence française conservatrice écrit ce manifeste. Et qu'est-ce qu'il dit le manifeste? de prévoir des sanctions contre l'Italie est une abomination, étant donné que c'est le travail même de la civilisation que M. Mussolini, avec des libéristes, est en train d'exercer en Éthiopie. Tu ne peux même pas confondre race supérieure et race inférieure. Qu'est-ce que c'est que ces nègres de l'Éthiopie, tandis que M. Mussolini représente l'espoir de l'humanité, la civilisation. Donc, à aucun prix, ne pas appliquer de sanctions à l'Italie. Qui gouverne à ce moment-là la France du point de vue politique extérieure? C'est un nommé Laval. Et Laval a bien promis à la Société des Nations qu'il appliquerait les sanctions. Mais il obtient de la Société des Nations que la principale sanction, et vous comprendrez encore mieux aujourd'hui à quel point elle était principale, c'est-à-dire l'embargo sur le pétrole, ne soit pas appliqué à l'Italie. Si on avait décidé qu'il y avait un embargo général sur le pétrole, l'Italie ne pouvait plus continuer à agir. Et bien c'est Laval qui va obtenir qu'au moins pas d'embargo sur le pétrole. Et il fera beaucoup mieux en douce et sans en avertir les Anglais qu'ils seront bien entendu très vite. Laval va mettre le chemin de fer français, de Djibouti à Addis Abeba au service de l'Italie. Parce que c'est une collaboration presque militaire de la France à l'agression de l'Italie contre l'Éthiopie. L'Angleterre est furieuse, elle est encore plus quand elle lit le fameux article sur un retentissement, vous-même vous devez en avoir entendu parler, d'Henri Béraud dans Gringoire, faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? Voilà donc le résultat de la première politique extérieure que faisaient nos conservateurs, qui était de nous brouiller avec l'Angleterre. Du côté de la Russie, ce que la Russie, vous avez vu, ça avait fait Dartout. Ça avait été très mal accepté dans le parti conservateur. Laval avait succédé à Dartout, dans des conditions que je vous dirai si j'y pense tout à l'heure, dans la dernière partie de mon exposé. Alors Laval, pour ne pas manifester trop nettement sa désapprobation complète, en fond de son cœur, de la politique de Dartout, va néanmoins se rendre à Moscou. Il va signer un pacte d'assistance mutuelle entre la France et le régime soviétique. Hurlement, bien entendu, à droite, mais Laval dit à ses amis, ne vous inquiétez pas, c'est une affaire de politique privée. En effet, il est maire d'Aubervilliers, Laval. Aubervilliers, c'est la banlieue rouge de Paris. Laval a été autrefois un socialiste d'extrême gauche, au point que, pendant la guerre, 1915, il était allé à Quintal, vous savez, dans votre pays, et Quintal, où il avait rencontré les socialistes allemands, ça avait été considéré comme une trahison, enfin, qu'un socialiste français aille en pleine guerre serrer la main de socialistes allemands. En 1919, il s'était encore présenté comme un candidat d'extrême gauche. Il conservait à Aubervilliers une espèce de teinte, encore enfin une odeur d'extrême gauche sur ses vêtements. Alors il prouvait à ses électeurs d'Aubervilliers, voyez moi, je ne crains pas d'aller serrer la main de Staline, et électoralement ça lui était utile. Et à peine le traité est-il signé, il faut le faire ratifier. Ils savent aujourd'hui que Laval, retour de Moscou, va donner les enveloppes nécessaires à la presse docile au ministère de l'Intérieur, pour qu'une campagne de presse se déroule dans la presse française conservatrice contre la ratification du pacte avec Moscou. Parce que l'argumentation est bien simple, on ne s'approche pas à ces gens-là, il faut, sans pardon sanitaire, toucher la main de Staline, même pour des raisons de politique extérieure, c'est tout de même la contagion qui va venir en France, jamais de liaison entre la politique française et la politique soviétique. Cette ratification, la balle s'arrange pour ne pas l'obtenir, et il faudra qu'il soit renversé pour qu'au début de 1936, qu'il est renversé en janvier, le gouvernement Sarrault fasse contre tous les nationalistes français, contre les trois hebdomadaires dont je vous parle, contre l'Action française, contre toute la presse de droite, cette ratification. Encore faut-il que la ratification soit suivie d'entente militaire entre les majors franco-anglais et les majors russes, et ça, c'est une grande. Quant à l'Allemagne, c'est bien intéressant ce qui se passe. Il y a un instant, je vous disais que du temps où l'Allemagne était celle de Weimar, qu'elle était épuisée, exsangue, et que vous pouvez dire songer à la revanche, nous, nationalistes, avaient été odieux. L'Allemagne de Weimar était couverte de crash. Chez Jacques Bainville, de l'Action française, avait écrit un livre qui s'appelait « Histoire de deux peuples », où il expliquait au public français que l'Allemagne n'est pas seulement dangereuse lorsqu'elle est militariste, lorsqu'elle est représentée par un empereur, mais que toute femme allemande, tout enfant allemand, et ce sont des ennemis nés de la France. Et par conséquent, il faut les exterminer si on ne peut pas faire mieux. Un autre monsieur de l'Action française, qui s'appelait Louis Guimier, avait écrit Les tronçons du serpent. Le serpent, c'est l'Allemagne. Il n'y avait plus que des tronçons, mais les tronçons sont aussi dangereux que le serpent. Enfin, une politique de mépris et d'insulte permanente à l'égard de l'Allemagne. Et Kant, brillant pour des raisons du reste surtout bancaires, avait essayé une entente avec Stresemann. Où Stresemann et Brillant pensaient à une espèce d'Europe des banquiers, c'est tout de même mieux qu'une Europe déchirée. On avait vu toute la droite se jeter contre Locarno en disant « Monsieur Brillant trahit les intérêts français ». Or maintenant, que l'Allemagne est devenue très dangereuse avec Hitler, dont on sait ce qu'il veut, cette même droite, jadis chauvine, se prospère, oh non, j'exagère, multiplie les sourires et les prévenances à l'égard d'Hitler. une preuve. La première preuve, la voici. En 1933, Einstein se sauve d'Allemagne, parce qu'il est juif. Une partie de la gauche française propose d'offrir à Einstein un poste au Collège de France. Soulèvement de toute la presse de droite. En disant, si vous acceptez Einstein au Collège de France, c'est une provocation. Vous entendez, une provocation que vous faites à l'égard d'Hitler. Lorsque le 7 mars 1935, au mépris de sa parole, Hitler remilitarise la Rhénanie. Parenthèse, vous vous rappelez peut-être que l'Allemagne avait promis, son allemand à Locarno, qu'elle démilitariserait d'une manière permanente la Rhénanie. Donc, pas de troupes allemandes sur cette rive gauche du Rhin. Hitler dit, si, je veux, moi, remilitariser mon pays, parce que j'ai demandé aux Français de faire l'égalité, c'est-à-dire de se refiler aussi, de retrouver leurs troupes de 50 km à l'intérieur de la France. Si les Français démilitarisent une zone de 50 km, nous ne remilitariseront pas. Comme les Français, naturellement, n'avaient pas voulu bouger, Hitler dit, moi, j'ai le droit, je défends mon pays, je suis obligé de remilitariser. Que pouvions-nous faire? Je crois que nous ne pouvions pas. Je ne crois pas que la France avait à ce moment-là les moyens de contraindre Hitler à reculer. Elle aurait pu très facilement, en envoyant une division, refouler ces bataillons. Mais nous savions aussi que si nous avions envoyé des troupes en Rhénanie, c'était un atout énorme que nous donnions au nationalisme allemand. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la droite. Et bien, premièrement, le 15 mars 1936, c'est-à-dire quelques jours après cette remilitarisation, comme certains parlaient en France de politique de violence à l'égard d'Hitler et de contrainte, M. Maurras avait écrit dans la Nation française un article intitulé « Pas de croisade juive », car se battre avec l'Allemagne eût été se battre au profit des Juifs. Mais ce n'est rien auprès de ce que je vais vous dire maintenant. Se constitue immédiatement dans Paris au mois de mars 1936 un comité de vigilance des jeunes Français mobilisables. Je répète ce que le mot est curieux. Hein. Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables. N'importe quel jeune Français. Qui en prend la responsabilité? Trois messieurs. Un nommé Jean-Maxence qui est oublié aujourd'hui, un autre qui est moins oublié qui s'appelle Thierry Monnier, et le troisième qui s'appelle Dartier de Pelletois qui sera commissaire aux affaires juives sous Vichy. Ces trois messieurs organisent un meeting à Magic City, environ 3000 personnes, et ce meeting se termine au cri de « Si l'on veut nous jeter contre l'Allemagne, c'est une guerre que nous ne ferons pas, car c'est la guerre des Juifs !» Voulez-vous réfléchir un peu à ce qui serait passé en France si en 1914, au début au printemps 14 par exemple, les jeunes gens d'extrême gauche avaient dit au gouvernement Poincaré, si vous faites la guerre, quelque guerre que ce soit, nous ne marcherons pas. Nous annonçons que nous sommes des déserteurs, des réfractaires, des insoumis, nous ne ferons pas la guerre de la France. Et qui s'était mis en prison immédiatement. Or, il y avait 3000 jeunes gens, et probablement beaucoup d'autres, qui annonçaient ouvertement, si on se bat avec l'Allemagne, nous ne marcherons pas. Malheureusement, c'est des fils de famille. Alors, on ne fera rien pour ces gens-là. On fera comprendre tout de même directement aux organisateurs que c'est imprudent ce qu'ils disent, et le comité finira par se dissoudre. Mais le comité avait parfaitement annoncé, de la manière plus ouverte, qu'une partie de la population française, si on voulait l'acheter contre l'Allemagne, ne marcherait pas. Ça, c'est en 36, hein, mars 36. Et voilà qu'en mai 36, les élections les pires que la France ait jamais connues, celles de 14, celles de 34, celles de 32, avaient été rapidement annihilées par les moyens du VI, et en 36, c'était le Front populaire. Les communistes passaient de 11 à 72, les socialistes qui avaient été amenuisés par la succession des néo-socialistes, lesquels, disait l'informateur personnel de Mussolini, sont des fascistes en puissance. C'est ce qu'avait dit Jobbé à Mussolini en l'automne 33. Les socialistes qui étaient tombés à 96 passaient à 147, les radicaux perdaient du terrain, ils étaient 159, c'est-à-dire restaient 112, mais néanmoins, la conjonction radicale, socialiste, communistes réunis dans le Front populaire depuis le 14 juillet 1935 avec une énorme majorité. Je ne suis pas là pour faire l'histoire du Front populaire puisque nous regardons le désastre de 40 et que je vous dise rapidement, que je vous rappelle du moins ce qui s'est passé. Le gouvernement Blum n'était pas encore constitué, il constituera le 6 juin et les élections sont du 8 mai. Le gouvernement n'est pas encore constitué que se produit à travers la France une vague de grève, celle qu'on n'en avait jamais vue. 2 millions de grévistes à la fin du mois de mai 1936. Et pour la première fois, des grévistes qui font des grèves d'occupation, des grèves sur le tas. C'est-à-dire qu'ils occupent les usines, enfin les lieux de travail, ou les grands magasins. Ajoutons qu'il n'y aura jamais un seul pillage dans les grands magasins et pas un seul sabotage dans les usines. C'est pas une atmosphère de violence, c'est une atmosphère de joie. Comme l'écrira Simone Veil dans un très bel article, elle dira c'était une joie ou c'était une fête. Depuis tant d'années, on avait tout subi, tout encaissé. Joie maintenant de pouvoir se redresser, se tenir debout, se sentir des hommes. Bon, alors le patronat prend peur, vraiment la panique, vous savez. À la veille du jour où où Blum va constituer son gouvernement, donc le 5 dans la nuit, Lambert Ribot, président du comité des forces, et Duchemin, président de la Confédération générale du patronat français, viennent trouver M. Blum chez lui et le supplient, le conjurent d'aller mettre le lendemain en présence d'un interlocuteur valable. Cet interlocuteur valable étant M. Jour de la CGT. Jusqu'alors, le patronat ignorait la CGT. Il disait, nous ne connaissons des ouvriers, nous ne connaissons pas de syndicats. Le patronat est dans un tel état de panique qu'il dit à Jour, nous allons discuter avec Jour parce qu'il fera entendre la classe ouvrière. Accord de Massignon, dans la nuit du 7 juin 1936. Et sur sa foulée, Blum obtient les 11 et 12 juin 1936 le vote de deux grandes mesures qui persisteront, la semaine de 40 heures d'une part et les congés payés d'autre part, lesquels congés payés existent dans l'Italie mussolinienne depuis environ 10 ans. Mais évidemment, le patronat français en a pris un coup dur, ça l'a épouvanté. Et là, il a cru que c'était une atteinte à la propriété, alors qu'en fait, vous savez, les 9/10 de ces grévistes ne pensaient que au bien-être immédiat. Ils voulaient une augmentation de salaire, ils voulaient des congés payés, la forme de structure, ça leur passait au-dessus de la tête. Il y en avait un petit nombre, avec Marceau Pivert et quelques trotskistes, qui voulaient des comités de gestion dans les usines. L'humanité elle-même s'y était opposée en parlant de la gesticulation hystérique de quelques trotskistes, c'est-à-dire de l'humanité. Enfin, pas d'histoire, hein. Simplement, on va donner à ces braves gens ce qu'ils demandent, c'est-à-dire 12% d'augmentation de salaire. Ça, c'est considéré 12% en moyenne. Bien entendu, le patronat ne veut pas voir les marges bénéficiaires diminuer. Alors, le seul moyen de récupérer ce qu'ils vont perdre par l'augmentation de salaire et par le congé payé, c'est la hausse de l'augmentation des prix de vente. Si bien que ces malheureux gens qui étaient pour la première fois, partis à la mer ou à la campagne, ils n'avaient jamais vu ça, les ouvriers parisiens, hein, qu'ils partent si heureux. Quand ils vont rentrer, ils vont s'apercevoir que les prix commencent à augmenter, ils vont augmenter, et l'avantage salarial qu'ils ont eu au mois de juin va être rapidement englouti. Donc le Fonds populaire va aboutir à cet avortement que des millions de gens, 2,5 millions, je crois, étaient entrés à la CGT en 1936, et qu'en 1937, les cartes de la CGT sont déchirées en grand nombre, et qu'en novembre 38, la CGT va tenter une grève générale qui aboutira à un épouvantable avortement. Néanmoins, la classe précédente avait eu une terriblement peur en 1936, et le bruit, enfin la phrase que j'ai entendue moi-même, et qui est maintenant répétée dans tous les bouquins, et c'est une phrase banale à droite, « Tout plutôt de l'homme !»« Tout plutôt de l'homme !» Et je vous assure que ce tout allait très loin. C'est ce que nous allons voir maintenant, et je voudrais vous citer, avant de commencer la deuxième partie de mon développement, une phrase que François Mauriac écrivait dans une lettre ouverte à Kérilis en novembre 1938. Quand le moment sera venu d'écrire l'histoire du nationalisme français, et je pense que le moment est venu, il sera curieux d'étudier cette étrange évolution qui crée chez nos nationalistes d'aujourd'hui une haine inconsciente de leur propre pays. Comment se mettre sur cette haine? Tout plutôt que Blum, n'est-ce pas? Or, voilà qu'en 1934, Hitler avait augmenté de 43% son budget militaire. Cependant, ni en 1934, ni en 1935, les gouvernements français, celui de Doumer d'une part, et ensuite celui de Flandin et de Laval, n'avaient rien fait pour l'augmentation, et de Laval, je ne sais pas bien trompé, mais Doumer, Flandin et Laval n'ont rien fait pour augmenter les budgets militaires français. C'est en octobre 1936 que Blum, c'est-à-dire l'homme du Front Populaire, va pour la première fois se soucier de rendre de donner à la France de quoi se défendre. Et il fait voter 14 milliards, chiffre énorme. 14 milliards de crédits militaires. Pour la réception de notre armement insuffisant et pour la construction de chars et d'avions. Quel est l'accueil que la presse chauvine, la presse conservatrice, la presse nationale, comme vous disiez, faite au projet de Blum, fauteur de guerre. Blum augmente de 14 milliards la défense nationale, les crédits de la défense nationale, ça c'est un homme qui veut l'accueil. Et il importe que je vous cite maintenant, en allant lentement, les phrases inouïes qui nous ont été révélées au début de l'année 1939 par l'ancien président du Sénat de Danzig, s'appelait Rauschnig. Rauschnig avait été nazi, était sorti du parti nazi, et révélait au printemps 1939 un livre, et publié un livre qui s'appelait Hitler nazi. Il y avait dans ce livre des phrases stupéfiantes, c'est pour ça que je vais vous en donner lecture en articulant bien. Les phrases où Hitler se vantait d'une trouvaille qui lui était personnelle. Et c'était qu'il s'est arrivé. Cette trouvaille, c'était la dislocation psychologique de l'adversaire. C'est le mot Hitler. La dislocation psychologique de l'adversaire. Donc voici les phrases. Jamais, déclare Hitler, jamais je ne commençais une guerre sans avoir auparavant la certitude absolue que l'ennemi démoralisé succombera sous mon premier choc. Je continue. Partout en pays ennemi, nous aurons des amis qui nous aideront. Nous n'aurons même pas besoin de les acheter. Ils viendront nous trouver d'eux-mêmes. J'entrerai en France en champion de l'ordre social. Et je trouverai des collaborateurs, alors je m'excuse de ce que je vais vous lire, c'est pas moi qui parle, c'est pas Hitler. Et je trouverai des collaborateurs, particulièrement dans les milieux d'affaires, pour qui seul un mot du dictionnaire s'écrit en majuscule, le mot de profit. Nous aurons avec nous les classes dirigeantes et possédantes et ses collaborateurs spontanés dans la bourgeoisie capitularde, c'est encore Hitler, n'auront pas de peine à trouver les phrases patriotiques servant d'habillage à leur jeu. Ben, je vous montre à quel point Hitler a été comblé du côté des nationalistes, enfin des nationaux français. Oui, ils avaient inventé le mot national, surtout à partir de Blum, parce que Blum étant un juif, c'était un éthèque, naturellement, c'était pas un français. Alors la manifestation qu'on était un vrai français, c'était national. Les ligues ne bougeaient plus, ça, ils avaient très peur, les ligues. Elles avaient été extrêmement vivantes jusqu'en 1934, la partie de Front Populaire, elle ne bougeait plus. Mais en 1936, en juin, à la fin de juin 1936, le Figaro avait annoncé une journée nationale. L'immeuble du Figaro, vous connaissez, au rond-point des Champs-Élysées, disparaissait des Arisam tricolore, et tout le 16e arrondissement, qui est un quartier honnête, ruisselait de drapeaux. C'était la protestation nationale contre la présence d'un État et d'un étranger au pouvoir. Alors les nationaux vont se conduire comme vous allez voir. Le 17 juillet 36, une nouvelle arrive dans les télèques, considérable, comportant un changement de régime en Espagne. On apprend ce jour-là qu'un général qui s'appelait Franco, appuyé par certains groupes bancaires, faisait une offensive contre le gouvernement légal, qui est le gouvernement républicain. Les élections avaient eu lieu en février 36. Il s'était constitué en Allemagne, en Espagne, un Frente Popular, que le général de Castelnau avait immédiatement appelé le Frente Popular, et c'était ce Front Populaire qui dirigeait l'Espagne. Je ne nie pas, certes, qu'il y avait du désordre, en particulier du côté anti-religieux, où les églises étaient brûlées, où il y avait des violences. Mais en fait, il se trouve que ce gouvernement républicain était le gouvernement légal. D'autre part, ce gouvernement républicain était très bien avec le gouvernement républicain français, le gouvernement de Blum. Or, tout à coup, on apprenait que le gouvernement républicain était menacé par une insurrection militaire. Revenons encore assez loin en arrière. Nous sommes au printemps 1870. Printemps 1870, Napoléon III apprend que l'Allemagne, la Prusse à ce moment-là, a l'intention de mettre un Hohenlohe sur le trône vacant d'Espagne. Napoléon III était un ennemi de la paix, vous savez, quand il fera la guerre, il la fera à son corps défendant, et il fait savoir à Guillaume Ier que la France va considérer comme un casus belli qu'il y ait un Hohenlohe sur le trône d'Espagne. C'est déjà assez, disait Napoléon III, qu'il y ait au nord-est de la France une Prusse dangereuse, on l'avait vu assez dangereuse contre l'Autriche et contre le Danemark, on s'attendait à ce qu'elle attaque à la France. Napoléon III dit, je ne peux pas permettre que mon pays soit encerclé. Il y a d'un côté une Prusse, et de l'autre côté, derrière les Pyrénées, une autre Prusse. Bon, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, Guillaume Ier, qui était craintif, et malgré les exhortations de Bismarck qui voulait la guerre, Guillaume Ier retire la candidature au Hohenlohe. Et voilà que maintenant, en juillet 1936, la France se trouve de nouveau menacée d'une autre Prusse, d'un pays dangereux, de l'autre côté des Pyrénées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais vous raconter un détail qui est très peu connu et qui figure seulement dans ces 9 volumes lisibles, il faut lire, de l'enquête parlementaire française sur les événements entre 1933 et 1945. C'était 9 volumes. Il y a des tas de révélations. Mais il y en a une qui est bien saisissante et que voici. Blum a pris des contacts à droite et à gauche, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lebrun a dit pas bouger, Hériot a dit pas bouger, les Anglais ont dit pas bouger. Mais Blum fait venir notre attaché militaire français, colonel Morel, attaché militaire français à Madrid auprès du gouvernement républicain. Blum savait parfaitement que le colonel Morel était un monarchiste de tempérament. Un officier loyaliste, qui servait la République, qui n'était pas du tout d'action française, mais qui ouvertement disait je trouve que la République est un mauvais régime pour la France. Enfin, comme c'était un militaire loyal et très compétent, on l'avait maintenu en position. Alors Blum reçoit dans son cabinet ce colonel Morel, dont il sait la vie politique, et lui dit, entre quatre yeux, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous pensez? Et on a dans ce livre de l'enquête la réponse courageuse, je vous assure, courageuse, de ce colonel Morel, qui, regardant le président du Conseil juif dans les yeux, lui dit, monsieur le président du Conseil, vous savez parfaitement ce que je pense. Je pense même tellement ce que je pense, que s'il y avait un roi en France, il n'hésiterait pas. Intervirait tout de suite en Espagne pour éviter l'énorme danger d'un gouvernement qui nous détestera de nous faire libérer. Voilà ce qu'avait dit le colonel Morel. Faire une intervention en Espagne. Impossible. Le programme du Front Populaire fameux serment du Front populaire du 14 juillet 1935 portait ces trois mots. La liberté, le pain, la paix. Et même M. Guénaud, qui était un ami des formules emphatiques, avait dit la grande paix humaine. Les électeurs du Front populaire ne comprendraient pas. Un gouvernant du Front populaire lance la France dans une opération militaire. Donc c'est très bien que s'il essaie une intervention militaire en Espagne, il ne sera pas suivi de son propre parti. Mais du moins peut-on autoriser au moins, le gouvernement républicain espagnol, le gouvernement régulier espagnol, à s'approvisionner en armes chez nous, en France. C'est ce que Blum déclare à ces républicains espagnols qui viennent le trouver en disant on a besoin de tanks, on a besoin de munitions, de chars, enfin d'avions, est-ce qu'on peut en acheter chez vous? Blum dit, mais c'est évident. Ça, c'est le 21 juillet. Le 23 juillet, un certain M. Raymond Cartier, qu'on connaît, je crois, encore aujourd'hui dans Paris, M. Raymond Cartier publie un article foudroyant, vous m'entendez, un article foudroyant, dans les Côtes de Paris, pour dénoncer la trahison du gouvernement Blum. Le gouvernement Blum s'apprête à donner des armes à ce front trapula, qui est de l'autre côté des Pyrénées. On voit que le Front populaire, c'est la guerre, voilà ce que dit M. Cartier. Blum va reculer. Il va dire, non, alors officiellement, on ne vous permet pas d'acheter quoi que ce soit. Et d'une manière assez misérable, ce sera clandestinement qu'il permettra à Malraux d'acheter quelques vieux coucous et que transiteront à travers la France, bien cachés, quelques pièces qui arriveront de Russie pour soutenir les républicains espagnols. Rien à côté de ce que l'effort militaire que vont faire les Italiens et les Allemands. Les Italiens vont envoyer immédiatement des avions. Il y en a même deux qui vont tomber sur les positions françaises. Un va tomber au Maroc, l'autre va tomber en Algérie. Donc on sait que ces avions italiens, bombardiers italiens, vont aider Franco. On a peur, Darlan lui-même a peur, que les Baléares deviennent une base militaire contre nous, coupant nos communications avec l'Afrique du Nord. On sait la Légion Condor, on sait l'aviation de Göring, on sait l'appui massif que les fascistes et hitlériens vont apporter à l'Espagne. La presse de droite fait le plus grand silence là-dessus. Il ne faut pas dire que ces gens-là sont nos ennemis. Et quand, en printemps, je me rappelle bien, printemps 37, Guernica nous offre le premier exemple d'une guerre totale. Quand Göring a déchaîné ses bombardiers sur la petite ville basque de Guernica et que la ville est en éclairagée, savez-vous ce qu'on peut lire dans trois numéros de sud de l'Action française? Il s'est passé quelque chose d'affreux à Guernica. La ville est en cendres. Parce qu'évidemment, ce sont des gens qui sont républicains, mais ils sont en même temps catholiques, ce sont des basques. Alors les membres du Front populaire, c'est-à-dire les anarchistes et les communistes, se sont jetés sur Guernica et l'ont réduit en cendres par haine du catholicisme, afin de ne pas dire que c'était Göring. Vous voyez que là, stratégie hitlérienne trouvait en effet des collaborateurs précieux en France. Hitler va procéder avec beaucoup d'habileté. Vous avez vu comme il avait fait à l'égard de la remilitarisation en disant je ne le fais que parce que la France elle-même ne veut pas démilitariser. D'autre part, Hitler va réclamer l'Anschluss, que nous avons traduit exactement en disant annexion. Non, ça veut dire réunion. Alors, c'est faut savoir qu'en novembre 1918, au moment où se discutait le traité de paix qui sera la paix de Versailles, l'Autriche, qui était à ce moment-là réduite à rien, vous savez, l'Autriche-Hongrie était divisée en tout petits morceaux, il n'y avait juste une petite Autriche. L'Autriche avait demandé et redemandé aux franco-anglais, enfin aux alliés de Versailles, de l'autoriser à se réunir à l'Allemagne. Refus absolu. En 1931, l'Autriche avait au moins demandé l'union douanière avec l'Allemagne et brillant, je lui avais refusé. Alors c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'ils servent à dire, mais je vais faire cette annexion. La majorité des Autrichiens ne demandent que cela. Ça avait été vrai pendant des années, ça l'était moins depuis le nazisme, et une partie des Autrichiens qui souhaitaient la réunion à l'Allemagne jusqu'à 1933 ne la souhaitaient plus à partir du nazisme établi en Allemagne. Je crois néanmoins, il faut dire la vérité, hein, je crois néanmoins qu'il y avait eu un plébiscite qui aurait une immense majorité d'Autrichiens qui auraient dit oui pour la réunion à l'Allemagne. Réunion qui semblait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous heurter, mais qui me paraît aussi naturel que la réunion de la Savoie à la France en 1860. La Savoie parlait français, elle était à ce moment-là italienne, Napoléon III avait demandé, comme prix d'intervention qu'il avait fait en Italie, que la Savoie soit réunie à la France. Et bien je crois que la réunion de l'Autriche en Allemagne était aussi naturelle. Vous voyez qu'il s'est favorisé derrière le droit des peuples. Et c'est encore derrière le droit des peuples qu'il va s'abriter, lui qui s'en moque pas mal, lorsqu'il va mettre en cause la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie l'inquiète beaucoup. Un, parce que les Français en ont fait un bastion militaire puissant sur le sud de l'Allemagne. Deux, parce que le gouvernement Beneš, tchécoslovaque, est bien avec le gouvernement russe. Beneš avait bien d'amitié avec les Russes. Hitler a décidé de venir à bout de la Tchécoslovaquie. Or, au mépris des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, parfaitement, il faut le dire, le traité de Versailles avait annexé à la Tchécoslovaquie, afin qu'elle ait des frontières qui fussent des montagnes, avait annexé à la Tchécoslovaquie les monts des Sudètes. On finira par ne plus dire que les Sudètes, c'était une exactitude, mais les monts Sudètes peuplés d'Allemands. 3,5 millions d'Allemands, ethniquement allemands et parlant allemand, avaient été de force réunis à M. Goslovac. C'était évidemment une violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et Hitler s'en emparait pour dire, mais je ne demande qu'une chose bien normale. Je demande que les Allemands retournent à la patrie allemande. L'arrière-pensée, vous la connaissez, c'était de détruire la force militaire de la Tchécoslovaquie. Elle venait du reste d'en prendre un coup, si je puis dire, depuis l'Anschluss. Parce que la Tchécoslovaquie n'avait pas de fortification du côté de l'Autriche, considérée comme non dangereuse. Donc, du moment que l'Autriche était devenue allemande, était devenue nazie, c'était déjà un moyen de tourner la Tchécoslovaquie par le sud et de prendre à revers ses défenses militaires de la région des Sud. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ben, on va faire Munich, vous savez bien. Munich, c'est-à-dire que Chamberlain a fait savoir à la France qu'en aucun cas il n'interviendrait militairement pour protéger la Tchécoslovaquie. Sinon, c'est plus grave pour la France. L'Angleterre n'a pas de liaison d'honneur avec la Tchécoslovaquie, tandis que nous, Français, depuis 1925, nous avons un pacte d'assistance mutuelle. Nous avons promis juré, sur l'honneur de la France, que la Tchécoslovaquie serait défendue en tout état de cause. Et bien, la France va être obligée de renoncer à sa parole. Et peut-être, je ne suis pas stratège, peut-être n'avions-nous pas, nous Français, en 1938, les moyens de nous opposer militairement à l'Allemagne. Je sais, ça c'est officiel, que le général Guillemin, chef suprême de l'aviation française, avait dit, si nous faisons la guerre, dans 15 jours, il n'y aura plus d'aviation française. Tellement nous sommes encore mal armés en 1938. Possible. Et c'est pas ça qui m'intéresse dans la démonstration que je poursuis devant vous, et qui est le comportement des nationaux français, c'est-à-dire des conservateurs français, c'est de voir la silence avec laquelle tous les journaux de droite, les trois hebdomadaires dont je vous parle, et la chaîne française, disaient, en aucun cas, il faut se battre contre l'Allemagne. La parole de la France, ah, il y a des cas de force majeure. On ne peut pas faire la guerre à l'Allemagne, on ne doit pas faire la guerre à l'Allemagne. Et quand Daladier, le 23 ou 24 septembre, avait fait une prémobilisation, vous vous rappelez peut-être qu'un million de réservistes avaient été rappelés, M. Gaxot, aujourd'hui de l'Académie française, dans Candide, avait publié un article à l'intention de se rappeler, en leur disant, vous n'avez qu'un devoir, c'est de faire savoir que vous ne ferez pas cette guerre qui serait un suicide de la France sur l'ordre des Russes. L'article faisait un grand journal, Candide, et un futur académicien. Donc, acclamation dans l'Action française. C'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons fait reculer le parti de la guerre lorsqu'on apprend la triste décision de Munich. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette réunion de Munich, vous vous rappelez qu'il y avait France, Italie, Angleterre et Allemagne, France, Italie, Angleterre, Allemagne, deux nations qui auraient dû être présentes étaient absentes. La Tchécoslovaquie d'une part, qui s'en fait sentir son dos qu'on discutait. Hitler ne veut pas accepter la présence de Beneš. Et la Russie soviétique, d'autre part, qui elle aussi, comme la France, avait un pacte d'assistance mutuelle à la Tchécoslovaquie. Mais Hitler avait dit, en aucun cas, je n'admettrai qu'un représentant de la Russie soviétique soit à Munich. La France et l'Angleterre avaient accepté, et Churchill écrit dans ses mémoires, c'était là, sur les joues de Staline, une gifle qui n'était pas prête d'oublier. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de Munich? Eh bien, le 6 décembre 1938, Georges Bonnet, qui dirige en France les affaires étrangères, et qui est un homme de bien, enfin, qui est un homme très aimé du tout Paris, adresse une invitation à Ribbentrop, chef de la diplomatie allemande, l'invitant à Paris, l'organisant une réception pour lui dans son texte tout juste, même dans cette réception officielle, parce qu'on ne peut pas infliger la présence d'un juif à M. Ribbentrop, et c'est au lendemain d'un épouvantable programme qui va se produire, quand il dit qu'il va se produire à Berlin, mais peu importe, on serre la main de Ribbentrop, et on lui murmure, car M. Bonnet avait eu soin de ne laisser aucun document diplomatique, mais on le sait aujourd'hui, lui murmure que la France n'avait aucun inconvénient, elle se désintéresse maintenant de l'Europe centrale, aucun inconvénient à ce que la puissance hitlérienne se tourne plutôt du côté de l'Est. Vous me direz qu'on faut de la bonne politique, ça qu'est-ce que vous voulez, c'est un Français, M. Bonnet. Il sent que l'Alsace-Lorraine est menacée, alors il va diriger le monstre d'un autre côté. Il va dire, écoutez, laissez-nous tranquilles, nous on n'est pas très dangereux, tandis que vous avez du côté de Staline quelqu'un d'horriblement dangereux. Staline saura tout de suite, à cause des informations qui sont bien placées, ce que la France, par la voix de M. Georges Bonnet, a dit à l'Allemagne. À savoir, amis, entre nous et entre la France et l'Allemagne, et tournez-vous donc du côté des Russes. Le 9 mars, je crois que c'est le 14 mars, je m'en rappelle bien, en mars 1939, Hitler, pour la première fois, jette son masque. Il s'était masqué du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et voilà qu'il va se jeter sur la Tchécoslovaquie, qui est déjà réduite pratiquement à rien. Il va entrer lui-même à Prague, je crois bien que c'est le 14 ou le 15 mars 1939, et cette fois s'imposant de force à un pays qui ne veut pas bouger. Qu'est-ce qu'elle fait à la France? Ben, elle ne bouge pas non plus. Mais c'est en avril que l'Angleterre va faire savoir, car hélas, mon pays suivait, était à la remorque, l'Angleterre va faire savoir, ça suffit. Cette fois, on va essayer de mettre un frein, on va essayer de dire non, on va essayer d'empêcher cette expansion redoutable et de plus en plus violente de l'Allemagne. Et alors, si c'est entendu, si on va s'opposer à l'Allemagne, ben il faut de même s'arranger avec les Russes. Et effectivement, au lendemain de Munich, et au lendemain de mars 1939, c'est-à-dire l'occupation hitlérienne à Prague, Hitler et Voroshilov, je croyais que c'était Voroshilov, qui était chef d'état-major russe, demande avec la plus grande insistance aux états-majors français et aux états-majors anglais que des concertations d'état-major aient lieu pour s'entendre sur la manière militaire de résister à Hitler. Chamberlain veut bien se poser à l'Allemagne, mais il est très réticent à l'égard d'une alliance militaire avec les Soviétiques. Quand le gouvernement français fera semblant d'envoyer une délégation militaire, il y a des instructions qui sont de ne rien faire sans l'accord de la Pologne. Attention, la Russie n'a pas de frontière directe avec l'Allemagne. La Russie est séparée de l'Allemagne par la Pologne. Pour venir au secours de la Pologne, et pour intervenir si la France et l'Angleterre sont attaquées, il faut donc que les armées russes traversent la Pologne. Or, il y a un contentieux terrible qu'on oublie trop, et dont De Gaulle n'a pas parlé dans ses mémoires, et je lui en veux un peu. Il y a un contentieux terrible entre la Pologne et la Russie. En effet, c'est en 1919 que la jeune Pologne reconstituée et enfin indépendante avait pris l'initiative d'une attaque contre la Russie. Il faut bien savoir, c'est la Pologne qui allait attaquer la Russie. En disant qu'elle n'est pas faible, elle tend à mettre sa révolution, et Pologne ne s'attendait pas à ce qu'elle ait fait trop de sites, parce qu'il est arrivé à mettre sur pied une armée de 600 000 hommes, et qui en voulait, je l'assure. Si bien que les agresseurs polonais avaient été refoulés, au point même que Varsovie avait été menacée par l'armée rouge. À ce moment-là, la France était intervenue, en voyant 2400 hommes, c'est rien, mais attention, 2400 hommes à Varsovie, qui étaient des cadres, des gens dirigés par le général Segan, qui avait dans sa compagnie le capitaine de Gaulle. Et ces 2400 cadres vont reformer l'armée polonaise, vont lui permettre de reprendre l'offensive, c'est-à-dire de redevenir agresseur contre la Russie, et cette fois, bien dirigés, les Polonais vont gagner, et vont obtenir le 18 mars 1921 l'abominable traité de Riga. Ce traité de Riga accorde à cette Pologne d'agression des territoires proprement russes. Vous savez peut-être qu'au début, on avait fait la ligne Curzon. C'est M. Curzon qui avait fixé la ligne vers la frontière entre la Pologne et la Russie d'après les principes ethniques. D'un côté, du côté ouest de la ligne Curzon, c'était les Polonais. De l'autre côté, c'était des gens qui étaient de race russe, qui parlaient russe. Eh bien, les Polonais, agresseurs victorieux et appuyés par la France, obtiennent au traité de Riga que la Biélorussie, habitée par les Russes, devienne polonaise, de même qu'un grand morceau de l'Ukraine. Naturellement, Staline n'avait pas avalé ça. Maintenant, 1938-39, lorsqu'il disait « Je ne demande pas mieux que de me battre avec contre l'Allemagne et avec vous, mais quand je traverserai la Pologne, je reprendrai les territoires qui étaient polonisés par question. » Les Polonais avaient le choix entre être écrasés, pulvérisés, anéantis par les Allemands, ou restitués aux Russes, ce que les Russes leur demandaient qu'ils leur avaient volé. Et M. Georges Bonnet, qui ne voulait absolument pas, pour des raisons de politique intérieure, de cette alliance militaire avec la Russie, passait son temps à se dissimuler derrière la Pologne et dit « Mais nous ne pouvons rien, c'est les Polonais eux-mêmes qui ne veulent pas de l'appui russe. » Nous avions bien su, nous les Français, peser sur la volonté de la Tchécoslovaquie lorsqu'il fallait faire plaisir à l'Allemagne. Nous avions tous les moyens de peser sur la volonté polonaise car c'était les subsides français, des millions, des milliards français qui permettaient à l'économie polonaise de tourner. Eh bien, M. Georges Bonnet n'utilisera pas ces moyens de pression qu'il a sur la Pologne parce qu'il ne veut pas d'une alliance militaire avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la Russie? Elle va faire ce qui m'a tellement scandalisé quand je n'avais pas réalisé le coup, quand je n'avais pas compris l'opération, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique du mois d'août 1939. Que des quantités de Français ont pris pour une épouvantable trahison et qui a permis même, en fait, qui a provoqué des soucis dans le Parti communiste. Mon camarade Nizan, qui était avec moi à l'état normal, inscrit au Parti communiste, va quitter le Parti communiste par indignation, en disant qu'il est imaginable que Staline ait serré la main d'Hitler, il a serré la main de Ribbentrop, et qu'il soit allié à l'Allemagne par le pacte des 23 août. Qu'est-ce que c'est ce pacte? D'abord, M. Reynaud dira, ça a été une pierre qui nous tombait du ciel, un choc prodigieux. Non, pas du tout. Staline l'avait annoncé au 8e congrès, j'ai oublié le nom du congrès, le numéro du congrès, du Parti communiste, c'est le 14e choix. Au congrès du 10 mars du Parti communiste, 10 mars 39, du Parti communiste russe, Staline avait été très net. Il avait fait une allusion assez voilée à ce qu'avait dit Georges Bonnet, poussant l'Allemagne du côté de la Russie, et il avait dit « Nous ne sommes pas prêts à jouer ceux qui tirent pour d'autres les marrons du feu ». D'autre part, espérant bien que ça serait répercuté, Staline avait fait dire à l'ambassadeur américain à Moscou, qui s'appelait Davis, lui avait fait dire, si les Franco-Anglais continuent à ne pas vouloir notre alliance, nous allons être obligés de faire autre chose. Donc les Français étaient, et les Franco-Anglais étaient avertis depuis plusieurs mois que Staline essayait autre chose pour se protéger. Et cette autre chose, ça va être la proposition invraisemblable pour lui, inimaginable, que lui fait Hitler. Hitler lui dit, je vais attaquer la Pologne. Je veux en finir avec cette Pologne. Je suis sûr que les Franco-Anglais ne bougeront pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Munich, je les tiens. Ce ne sont des vers de terre, disait-il en parlant de Daladier et de Chamberlain. Ils ne bougeront pas. Alors nous allons nous arranger tous les deux. Vous, Russes, vous n'aurez pas à tirer un coup de fusil. Nous allons nous envahir, nous allons gagner, on écrasera les Polonais comme rien. Et quand la Pologne sera à terre, quand il n'y aura plus de gouvernement polonais, eh bien vous entrerez sur les terres russes que vous avez perdues depuis 1921. Vous comprenez que nationalement, M. Staline ne peut pas faire autrement que de se jeter sur une proposition pareille. Et comme il sait d'autre part qu'il finira bien, parce que c'est contre lui qu'il s'est annoncé dans l'Amicante, il va avoir là un avantage stratégique considérable. 1. La frontière de la Russie se déplace de 250 km vers l'ouest. Par conséquent, Leningrad d'une part et Moscou d'autre part sont beaucoup mieux protégés contre l'invasion allemande qu'elle ne l'était jusqu'à présent, puisque la Russie va avoir ce vaste glacis. Et deuxièmement, Hitler va tolérer que Staline prenne des dispositions contraignantes, je vous l'avoue, hein, à l'égard des États baltes, afin de prendre de nouvelles sûretés en mer Baltique. Ces sûretés en mer Baltique sont faites, de la part de Staline, pour se protéger contre une inévitable agression allemande. Cette agression allemande, il sera beaucoup plus fort pour y résister, maintenant que les Allemands eux-mêmes lui ont donné la moitié de la Pologne. Voilà pourquoi Staline a fait cette opération que ni Churchill dans ses mémoires, ni De Gaulle lui-même dans ses mémoires ne condamne. L'un comme l'autre dit, c'est bien, c'est la politique française avait été telle, cette main tendue de Staline, nous n'avions pas voulu la prendre, Staline qui est à la fois le chef du communisme international, mais aussi le successeur des Tsars, Staline qui est un nationaliste pour son pays en même temps que le chef de l'international communiste, Staline a agi comme devait agir un homme qui avait les intérêts de son pays. Toujours est-il que le 1er septembre 1939, ça y est, l'Allemagne attaque, premier coup de canon, se jette sur la France. Tout à l'heure, j'aurais dû, mais je vais le faire maintenant, vous apporter une citation incroyable, parue dans une revue qui s'appelait Combat, qui était une revue absolument à l'extrême droite, au moment de novembre, en novembre 1938. Cet article inimaginable est signé d'un nom aujourd'hui illustre, Thierry Monnier. Écoutez bien ce que M. Thierry Monnier écrivait en novembre 1939, à propos de la crise de Munich, qui datait de 2 mois plus tôt. Beaucoup, écrit M. Thierry Monnier, beaucoup estimaient, c'est tellement inouï que je vous demande de bien écouter ça, beaucoup estimaient qu'une défaite de l'Allemagne eût signifié l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste. Point de vue. En d'autres termes, qu'une victoire de la France eût été celle de principes considérés à juste titre comme menant droit à la ruine de la civilisation. Il est regrettable, poursuivait M. Thierry Monnier, il est regrettable que les hommes et les partis qui avaient cette pensée ne l'aient pas en général avoué, car ils n'avaient rien d'inavouable. J'estime même, disait-il, qu'elle était une des principales raisons et des plus solides, sinon la plus solide, de ne pas faire la guerre en septembre dernier. Vous voyez plus net, hein. Vous avez un Français qui vous dit publiquement qu'il n'allait pas faire la guerre car nous aurions pu la gagner, disait-il, hein. Et qu'une victoire de la France était une défaite de la civilisation. Et bien ces phrases incroyables, vous les entendez multipliées au moment de la déclaration anglaise. Vous voyez M. René Benjamin de l'Action française, qui en 1943, dans un livre publié à Lausanne, j'étais déjà en Suisse, j'ai pu le dire tout de suite, et qui à Genève, et à la Palatine, et qui s'appelle l'homme marcheur de son âme. M. René Benjamin de l'Action française va oser écrire ce qui suit. Il paraît que nous étions engagés d'honneur à faire la guerre. Oui, parce qu'on était engagés d'honneur à l'égard de la Pologne. On avait renié notre parole à l'égard de la Tchécoslovaquie, on ne la reniait pas à l'égard de la Pologne. Par exemple, ils étaient engagés dans la... Ah certes, écrit-il, le 3 septembre 1939, c'est-à-dire le jour de la guerre, je n'éprouvais pas le moindre sentiment d'honneur. L'idée d'une victoire me faisait frémir, virgule, autant qu'une défaite. Il a été prudent de dire ça. Néanmoins, c'est un Français que vous entendez déclarer ouvertement que l'idée d'une victoire son pays le faisait frémir. Le premier collaborateur de Robert Brasillach, à Je suis partout, qui s'appelait Alain Lobreau, écrit dans son journal qu'il publiera en 1945, 3 septembre 1939. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est une guerre courte et désastreuse. Donc, nous Français, nous avions en 1939 une partie de notre pays composée des notables et des chefs conservateurs qui ouvertement souhaitaient la défaite de ce pays, leur pays. C'est là où vous voyez que Mauriac, en 1938, avait été bon prophète. Qu'est-ce qui se passe? Les Polonais avaient espéré tenir tête à l'Allemagne en croyant que la France attaquerait. Ils disaient, les Allemands vont être obligés de diviser en deux leurs forces, puisque les Français ont décidé de faire la guerre, donc si les êtres blindés sur nous, Polonais, ils sont obligés de garder une part considérable pour l'attaque que les Français vont lancer. Les Français ne lancent pas d'attaque. Faut-il jeter la pierre au général Gamelin? Je ne crois pas. Parce qu'on savait à ce moment-là la puissance d'Alice Siegfried. Il paraît que en août 38, elle était faite. Je connais le rapport du général X, le nom m'échappe maintenant, du général allemand commandant de l'Institut, qui en août 38 avait osé mettre sous les yeux de Hitler une note disant, août 38, si les Français attaquaient, nous ne tiendrions pas trois semaines. Mais en août 38 et septembre, août 38 et septembre 39, l'Institut s'était prodigieusement fortifié. Donc le général Gamelin avait probablement de fortes raisons raisonnables de ne pas lancer des troupes françaises à l'assaut de cet Institut, c'était un épouvantable massacre. Et il ne pouvait rien faire d'autre. Pourquoi? Parce que la Belgique, qui avait été alliée de la France, alliée militaire de la France, jusqu'en 1937, avait en 1937 déclaré sa rupture. On avait rompu l'alliance militaire, Belgique-France, et la Belgique avait repris sa neutralité. Comme si la neutralité qui pouvait la protéger, on avait juste les Allemands et fait de la neutralité belge en 1914. Ben, Léopold III avait exigé que la Belgique se retirât de l'alliance. Si la Belgique avait été encore alliée, nous aurions pu tourner la Siegfried. Gamelin aurait pu envoyer un grand nombre de soldats à travers le territoire belge et luxembourgeois pour prendre la Siegfried par le nord. Ça nous était interdit et ça avait été un grand triomphe de la politique hitlérienne que d'obtenir la neutralité de la Belgique puisque ça interdisait aux troupes françaises d'y pénétrer. Et au point même que les Belges avaient mobilisé, je reviens de Belgique et j'ai posé des questions là-dessus, avaient mobilisé un certain nombre assez fictifs, non, ils étaient là quand même. Un certain nombre de soldats face à la frontière française pour s'opposer la force aux Français si jamais ils voulaient violer la neutralité belge pour aller attaquer l'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Rien. Donc on n'a rien fait. Mais il y avait une autre raison pour laquelle on ne faisait rien. Ça, c'est plus de raison militaire, ça ne regardait plus Gamelin, ça regardait Daladier. Daladier savait bien ce qui se passait dans mon pays. Il savait, c'est incroyable, les différences qu'il y avait entre 1914 et 1939. J'avais 11 ans en 14 et je me rappelle l'unanimité nationale, l'unanimité. On avait bien chanté l'international dans les rues de Mâcon, qui était mon pays, mais c'était disciple. L'état-major avait compté sur 13 à 14% d'insoumission, il n'y en a pas eu 3%. Les purs antimilitaristes marchaient. Pourquoi? Parce que la France était attaquée et que le vieux réflexe national jouait. En 1939, la France n'était pas attaquée. La France faisait toujours déraper une guerre préventive. La France disait, je suis engagé d'honneur à soutenir la Pologne, ça n'intéressait pas beaucoup de gens, vous savez. Ces quantités de paysans qui ne lisaient jamais leur journal et qui constituaient la piétale d'infanterie française, ces paysans ne comprenaient pas pourquoi ils étaient mobilisés. J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux à la gare de Bordeaux, et ces types, vous savez, ils étaient tranquilles, ils étaient obéissants, d'ailleurs, ils avaient peur des gendarmes. Les affiches de mobilisation parlaient de conseils de guerre pour tout réfractaire. Ces gens faisaient ce qu'on leur disait de faire, en se posant des questions. On est attaqué? Ah non, on n'est pas attaqué, alors pourquoi? Ah, si Dieu et Claire nous attaque, on marchera, mais tant qu'il ne nous a pas attaqué. D'autre part, la France, il n'y a pas tellement longtemps qu'elle avait subi cette hémorragie furieuse. 1 500 000 morts. 1 million de mutilés, en plus. Et il se trouvait que des gens qui avaient déjà combattu en 17 et 18 étaient remobilisés. Deux fois, dans la même vie, à laisser au perspic, pas non. Hein. Et puis, il y avait cette énorme propagande de la droite et des grands éleveurs dont je vous parle, pour répéter à satiété, c'est une guerre idiote, il ne faut pas la faire. Je vais vous apporter trois témoignages. En décembre 1939, j'étais professeur à Bordeaux, j'étais très lié avec un dominicain qui s'appelait le révérend Père Médieu, qui travaillait comme moi à la vie intellectuelle, était mobilisé comme capitaine d'artillerie, était venu en permission. Et comme nous étions seuls dans mon salon, il avait bien fait attention, on est seul, oui, on est seul. Et il m'avait dit, vous savez, je suis terrifié de ce que je vois sur la ligne, imaginons. Je suis là avec des officiers de réserve, mais tous, ou presque tous, disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est une guerre suicidaire. Hitler ne nous en veut pas. Hitler a dit qu'il voulait faire la paix avec nous. Hitler a renoncé son alignement, il l'avait dit le 6 octobre. Il a renoncé son alignement à la Lorraine, en France de plus. Et puis surtout, Hitler représente le barrage contre le soviétisme. Voilà ce que cet officier me disait en tant qu'officier. Par conséquent, il disait, si jamais la guerre éclate, je me demande comment ils vont se conduire. Le 2 février 1940, je suis envoyé par les affaires étrangères. J'étais donc à Bordeaux. Je suis envoyé par les affaires étrangères en Suisse, sous couleur de faire des conférences littéraires. Et en fait, on m'avait chargé de faire une petite enquête pour savoir d'approcher le plus grand nombre de personnalités suisses, hein, pour savoir comment les Suisses réagissaient à la situation française. Le 2 février, je m'annonce au Conseil général de France, avec M. Perron, à Genève, et il me dit, oh, écoutez, venez donc dîner ce soir, il y a un dîner en l'honneur de Claudel, qui est chez moi. Tout content, moi, vous comprenez, j'ai encore jamais vu Claudel de près. J'y vais, mais il n'y avait pas que Claudel à dîner. Il y avait un monsieur dont je ne veux pas dire le nom, qui était un banquier français, cheveux d'argent, très élégant, rosette de la Légion d'honneur, et qui était là, chargé d'une mission d'achat, pour le gouvernement français en Suisse. Et tranquillement, ce monsieur, avec sa Légion d'honneur, à la table du Conseil général, disait devant un Claudel suffoqué, comme moi-même, j'espère bien que cette guerre va s'arrêter, sans qu'on la fasse. Parce que c'est une guerre absurde, parce que cette guerre est au profit du communisme. Il faut qu'on trouve un moyen de s'arranger avec M. Hitler, disait-il, ce Français chargé d'achat. Enfin, ce qui les intéressera encore davantage, c'est le lendemain. Le 3 février, je vais à Berne. J'avais essayé de me trouver en contact avec le chef du département politique fédéral, M. Philippe Dolin. Et j'y étais arrivé. Un monsieur, Drault, de la Rosette, qui était le chef des, comment ça s'appelait, attendons, des conférences de langue française, association romande des conférences de langue française, avait bien voulu organiser chez lui, dans son salon, une conférence en smoking, je déteste ça, enfin, je vais parler devant M. Philippe Dolin. 15 personnes, 20 personnes, en fait, tout à fait sélect, vous savez, j'étais élégant, il n'y part pas. Et je devais parler sur François Mauriac. Si j'ai le pire, je fais une petite conférence sur Mauriac, et M. Drault, ensuite, me prend par le bras, il conduit dans un petit salon, où Pilégola et moi sommes seuls. Alors, j'allais prendre la parole, quand Pilégola me dit, on me suis dit, mais on fait du renseignement. Il devient tout rouge, mais c'est rien. Parce qu'il savait, quoi. Alors, j'ai dit, écoutez, oui, ça m'intéresserait beaucoup que vous me disiez ce que vous pensez de la situation internationale. Eh bien, je vous jure que je ne dirai jamais ce qu'il m'a dit. Ça a été trop court. Parce que Pilégola était grand et plus grand que moi, je regardais comme ça. Et il me dit, je ne suis pas prophète, n'est-ce pas, je ne suis pas prophète. Mais êtes tranquille, les Français, maintenant, parce qu'il n'y a pas encore la guerre. Si la guerre éclate, vous m'entendez, hein, si la guerre éclate, votre armée française, il a fait comme ça. Votre armée française, elle saute en l'air. Mais il avait dit ça, votre armée française, alors j'ai fait mon rapport. L'armée française qui devait sauter en l'air, je le comprends bien. Elle était pourrie, cette armée, pourrie. Cette armée qu'on n'utilisait pas, l'ivrognerie, enfin la police, ils faisaient d'épouvantables ravages. On essayait d'occuper comme on pouvait les soldats, vous savez, on leur faisait planter des légumes et des roses sur la ligne Siegfried, et ils étaient toujours là à dire, on nous a mobilisés par équipe pour venir au secours de la poêlerie. Ben, c'est loupé, après ils étaient écrasés alors qu'on rentre chez nous. Quand on les envoyait en permission, ils multipliaient les permissions à cause d'un souci démocratique, vous comprenez. Alors ils revenaient des permissions un peu éreintées, et surtout ils revenaient plein valcoff. Alors le général Rudy lui-même dira dans un livre pourtant bien respecté, après la guerre, nous avons été obligés d'établir dans les principales gardes de triage des salles de désutilisation. Admirable comme salles de désutilisation pour l'armée française. D'autre part, les Français étaient tout de même stupéfaits de ce qui leur arrivait. Car presque toujours, lorsque un bataillon prenait la relève d'un autre bataillon dans les tranchées françaises, 3-4 heures après maximum, s'élevaient des tranchées allemandes. Bienvenue au 3e bataillon du 50e régiment d'infanterie. Les Allemands savaient immédiatement ce qui se passait dans la ligne française. Mieux encore, sur la ligne du Rhin, les Français et les Allemands sont séparés par le Rhin. Des fraternisations étaient autorisées par pas mal de vieux Français. Les commandos allemands venaient, on leur serrait la main et ils donnaient lecture aux soldats français du discours d'Hitler. Discours du 6 octobre, où Hitler avait dit « Je n'ai rien avec la France, jamais je ne commencerai une guerre avec la France ». Et des papillons tombaient d'avions allemands, qui ne portaient aucune bombe, mais semblaient des papillons sur les lignes françaises, disant « Français, on vous trompe, ce sont les Anglais, ce sont les Juifs qui vous ont lancé dans cette guerre, mais nous ne tireront jamais les premiers », disaient les Allemands. J'imaginais l'état d'esprit des soldats français. J'ajoute un tout petit détail, d'un autre ordre, mais fort intéressant, et qui m'a été confirmé. Je l'ai lu dans le livre de Fongillatier, « Les Français pendant la Grande Guerre », et j'ai eu un témoin direct. Il s'agissait des soldats français qui étaient en bordure de la Suisse, vers base. Et ces soldats étaient très étonnés de voir passer, venant de France et traversant Bâle pour aller en Allemagne, des trains entiers de bauxite. Ils avaient appris rapidement par les douaniers suisses que c'est de la bauxite, qui venait d'une ville de la France en pleine guerre et qui allait alimenter l'industrie allemande de traité. Alors ça leur donnait une drôle d'idée. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Alors on va se faire faire le vite, tandis que des industriels ou des gens des mines sont en train de gagner de l'argent en armant l'Allemagne. Alors, c'est pas très surprenant ce qui va se passer le 19 mai. J'ai oublié de vous dire, je suis par ceux qui prêchaient, non pas la soumission, qui sera fait mettre en prison, mais qui prêchaient la paix. Je suis partout, était abonné au foyer du soldat par une quantité considérable d'officiers. Les officiers français estimaient que c'était le meilleur journal pour le moral des soldats, si bien que les foyers du soldat avaient déjà 300 abonnements à Je suis partout, et qu'il y en avait 300 autres qui étaient prévus pour le second semestre de l'année 1940. quand, le 10 mai 1940, Hitler attaque. Vous savez comment il va faire. Ce plan était assez génial, et il semble que ce soit lui, Hitler, qui l'ait conçu. Il va se jeter sur le Luxembourg, la Hollande et la Belgique. Immédiatement, la Belgique étant attaquée, appelle au secours les Franco-Anglais. Les Anglais vont débarquer et les Français vont faire mouvement. C'est-à-dire que les troupes, une partie des troupes qui avaient des Maginot vont sortir de Maginot et vont monter vers le nord à travers le territoire belge pour essayer de résister vers Dinan, vers Liège. Liège, c'est pas possible, c'est déjà enlevé, mais sur une ligne peut-être aux environs de Dinan. Par conséquent, le front français va être décalé. Hein. Il va y avoir dans la région de Sedan la charnière. À partir de Sedan du côté du sud, la ligne Maginot, les Français ne bougent pas. Puis de l'autre côté, à partir de l'articulation de Sedan, cette armée qui se déplace. Alors Hitler va lancer une offensive sur cette charnière de Sedan, tout en faisant semblant de continuer à avancer. Il ne fait pas semblant, mais il attaque du côté des Anglo-Belges. Donc les Français vont envoyer le plus grand nombre possible d'effectifs en Belgique, et lui qui va passer le dispositif à Sedan pour aller prendre par le sud, et va le fermer dans une nasse qui aboutira, comme vous savez, à Dunkerque. Là, c'est tout de même que je vous donne un détail très peu connu, qui est toujours dans le fameux livre d'enquête si révélateur, si personne ne le lit. Qui était responsable du créateur de Sedan? Un certain général Intiger. J'avais eu l'honneur d'être reçu à sa table lorsqu'il commandait les forces du Levant. Alors, j'avais fait une conférence à Beyrouth en 1938. Intiger est responsable. Pierre Sétinger, l'ancien chef des Jeunesses Patriotes, donc un Français insoupçonnable, qui était député et qui était membre de la commission de la Défense nationale, avait obtenu la réalisation, il avait demandé à faire une inspection sur le front. Un député a toujours le droit de faire une inspection. Il était précisément allé dans la région de Sedan. Et le 8 mars 1940, il avait remis son rapport à Gamelin, chef suprême des forces françaises, pour dire ce qu'il avait vu dans la région de Sedan. Il ne se doutait pas que ça allait être la région la plus vulnérable. Et il avait dit, il faut que je signale, en général, que les fortifications dans la région de Sedan, il est insuffisant de dire qu'elles sont rudimentaires. Il faut dire qu'elles sont embryonnaires, disait M. Tétache. Gamelin reçoit ça, et c'est ce qu'il dit naturellement, cet avertissement grave, cette remarque blessante, à un tigre. J'ai la réponse d'un tigre qui est dans le dossier. Un tigre hausse les épaules, il se fige, si ce mêle ne s'y regarde pas. Il n'y a rien à modifier dans le système défensif français dans la région de Sedan. Ben, c'est pendant là que le dispositif français, en effet, vole en éclat. Ajoutons, si vous voulez, que les pauvres soldats français ne connaissaient pas ce que c'était que les Stuka, et l'état-major français aurait dû le savoir, puisque les Stuka avaient déjà travaillé en Espagne, où j'étais exercé. Elle venait travailler en septembre en Pologne, et qu'on aurait peut-être pu habituer les recrues françaises à se planquer lorsqu'arrivaient du ciel des avions en piqué dans un bondissement terrible, dont les charges n'étaient pas grandes, elles n'avaient pas beaucoup de dégâts, ils tuaient pas grand monde, mais terrifiaient. La première ligne française va être épouvantée, je les comprends, par cette nouvelle forme de guerre, la panique, et c'est beaucoup inexplicable, beaucoup moins explicable, c'est que les 55e et 71e divisions, qui sont à 10 km en arrière et qui ne sont pas engagés, vont également se dissoudre et se dissocier. Ces divisions fondent. Les officiers du reste s'en vont. Des quantités d'officiers saisissent des voitures, soit des voitures militaires, soit des voitures de civils, plantent là les soldats et disparaissent dans la nature. Et les soldats de la 55e et la 71e fuient jusqu'à Reims. C'est vous dire que le front français n'existe plus. En 48 heures, il n'y a plus de front français. Monsieur de Monterland, qui en était, va raconter dans ce 6 de juin, j'ai vu les ordres de repli signé de signatures illisibles et qui étaient visiblement et qui étaient certainement allemandes. Je suis prêt à croire qu'il y avait des Allemands déguisés en soldats français dans nos lignes, les mêmes soldats allemands qui renseignaient l'ennemi sur la prison du 37e bataillon et qui, ce jour-là, au moment de l'offensive se déclenche, mettent tout en œuvre pour créer la panique et pour obtenir des replis avec des fausses et des signatures illisibles. Toujours est-il qu'en effet, c'est fichu. Le 15 mai, Paul Reynaud télégraphie. Elle téléphone à Churchill et lui dit il passe en masse, nous sommes perdus. Churchill ne veut pas s'appeler à ce point et dit écoutez, j'ai absolument la Paris. Il arrive le 16 mai 1940, et à ce moment-là, on apprend une nouvelle admirable, on la croit admirable. Les Allemands qui fonçaient dans la direction de Lens avec leur tank cessent de marcher sur Paris, et Gamelin venait de dire qu'il a rendu plus la sécurité de Paris, et au lieu de viser Paris, voilà qu'ils partent vers l'ouest. On ne comprend pas tout de suite l'habileté de leur démarche, que vous avez déjà compris, je l'ai indiqué. Ils vont avancer jusqu'à la Manche et enfermer dans un grand sud-est, dans une nasse, les troupes franco-anglaises du Nord. Pour l'instant, Paris est libéré d'une menace immédiate. Alors on respire un petit peu et croyant bien faire, mais je mets un point d'interrogation. Croyant bien faire, Paul Reynaud, ce 16 mai, s'adresse au maréchal Pétain et lui demande de venir prendre part au gouvernement. Dernière partie de mon exposé. J'ai vécu, comme tous les Français de 40, dans l'idée que le maréchal Pétain était un très vieil homme qui ne s'était jamais occupé de politique et qui, voyant son pays menacé, mettait sa personne à la disposition de la France. J'ai fait donc de ma personne à la France. D'autre part, s'il eut des acquaintances avec M. Laval, il fallait bien, il ne connaissait rien à la politique, et ce M. Laval se trouvait à être à Bordeaux au mois de juin, quand le gouvernement allait s'y réfugier, et c'est là que le maréchal Pétain prendra ce qu'il se trouve à M. Laval qui tenait à sa disposition. Tout ça est une idée fausse. Le maréchal Pétain est un homme qui fait de la politique, et la politique la plus précise, depuis 1934. Ajoutons que le maréchal Pétain avait été deux fois déjà sollicité dans le gouvernement. Lorsque la guerre a été déclarée en septembre, Daladier a essayé de faire ce que Viviani avait fait en août 1914. Rappelez, la France entre en guerre en 1914, c'est la gauche qui est au pouvoir, pour montrer que c'est une union nationale et que toute la France se bat. Viviani avait constitué un gouvernement où vont entrer bientôt les représentants de la droite elle-même. Cette droite catholique qui n'était plus au pouvoir depuis 1876 et qui revient du reste ravi en 1914. Enfin, union nationale. Daladier a fait la même chose. À ce moment-là, le maréchal Pétain était ambassadeur à Madrid. Daladier lui envoie un télégramme en disant « Nous souhaitons beaucoup la présence d'un homme de votre prestige dans le gouvernement de guerre français. » Et Pétain répond « Non. » Deuxième demande à Pétain en janvier 1940. « Venez, c'est important que vous soyez là. » Réponse « Non. » Le 16 mai, lorsque pour la troisième fois il était convoqué, il dit à son officier d'ordonnance, le capitaine Bonhomme, dont le carnet intime, enfin l'agenda, a été publié en 1955, il dit « La guerre peut être considérée comme perdue, j'accepte. » C'est dans la mesure où la guerre peut être considérée comme perdue que Pétain va entrer au gouvernement. Pour y faire quoi? De la politique intérieure. Les politiques intérieures, il n'avait pas cessé de la faire depuis 1934. Jusqu'en 1934, il ne s'était pas occupé de politique. Et tout à coup, le 7 février 1934, au lendemain de la terrible aventure que je vous ai racontée tout à l'heure, de Dunergue, qui prend le pouvoir, fait appel à Pétain. C'est curieux de faire appel à un militaire dans une affaire qui était une politique intérieure. Si en 34 la France avait été menacée, on comprend bien qu'on fait appel à un militaire. Non, c'est une affaire intérieure. Pourquoi fait-on appel à Pétain? Parce que Doumer savait déjà que la seule présence de Pétain au ministère calmerait une ligue. Ce ligue si menaçante, qui avait annoncé qu'elle allait refaire une journée encore plus violente le 7 que le 6, ces ligues ne font plus rien parce qu'ils auront un ami en la personne de Marcel Pétain au pouvoir. C'est donc, en qualité de représentant de la droite, en qualité d'homme bien vu des ligues, que Pétain a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est entré au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, presque rien, vous savez, presque rien. Il va d'abord se mêler s'il ne regarde pas, en faisant quelque chose qui n'est pas du tout correct, paraît-il. Un ministre n'a jamais à s'occuper de ce que fait un autre ministre qui est souverain dans son département. Or, Pétain va envoyer deux notes de sa main, au ministre de l'Éducation nationale, ça s'appelait encore instruction publique à ce moment-là, pour lui dire qu'il faut appeler son attention sur ce qui se passe dans l'enseignement français, de quoi se mêle le maréchal Pétain. Et il dit qu'il y a des enseignants, en particulier des instituteurs, qui se conduisent très mal, qui apprennent des idées très mauvaises aux jeunes français, je vous demande de surveiller de près les instituteurs. C'est Pétain qui fait ça. Et deuxièmement, je vous passe une troisième, il faisait remplacer Chéron par Lemery, c'est pas important. Mais ce qui est très important, c'est quand Barthou est tombé du pouvoir. Il n'est pas tombé, il est tout mort. Vous savez probablement que Barthou a été tué, presque par erreur, le 9 octobre 1934, lorsqu'il avait reçu le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, qui venait par visite officielle à Marseille, un terroriste yougoslave a tiré sur Alexandre Ier, qui avait été tué, et Barthou, qui était à côté dans la voiture, avait lui reçu deux balles. On ne l'a pas soigné assez tôt, et le malheureux Barthou est mort. Et j'essaie de le remplacer. Qui allait tomber pour l'affaire étrangère? On sait aujourd'hui que le maréchal Pétain, qui prenait peu de part aux conversations ministérielles, s'est levé pour dire qu'il n'y a qu'un nom évident pour les affaires étrangères, c'est Laval. Il faut donc savoir que le 14 octobre 1934, lorsque Laval arrive aux affaires étrangères pour les remplacer, Barthou, c'est par la volonté expresse de Pétain. Bon, le gouvernement Barthou ne dure plus le gouvernement. Doumer ne dure pas longtemps, il tombe en octobre. Le 3 décembre 1934, je tiens ça Gisorni, dans son bouquin de 1971, le premier livre sur le maréchal Pétain, c'est Gisorni est le défenseur de Pétain et qu'il l'adore. Mais c'est Gisorni lui-même qui nous raconte ceci. Le 3 décembre 1934, le festin de banquet annuel de la revue des Demandes. La revue des Demandes, c'est ce qu'il y avait mieux comme revue convenable. Bon, il y a toujours un banquet annuel. Mais cette année, c'était particulièrement important parce que l'hôte d'honneur était le maréchal Pétain. Et M. Gisorni, on n'a pas exactement le nom de ce qu'il dit, le maréchal était venu curieusement, non pas en tenue de maréchal, mais en tenue de chef d'État, en frac, avec un paston blanc barré de grand cordon de la Légion d'honneur. J'avais la liste de Paris, et je suis dormi, je pense bien, il y avait le cardinal Bourguignon, il y avait M. Thiap, enfin, il y avait Abel Boyard, tout ce qu'il fallait. Et devant cette association d'élite, Jean Pétain a fait un discours politique. C'est les amis qui leur prenaient un discours politique, entièrement centré sur l'éducation nationale, et en disant, c'est le devoir absolu des Français de penser à ce qui se passe, et les instituteurs français sont en train de détruire la fête de la France. Et il disait, d'autre part, il faut que l'école soit une préparation à la caserne, et que la caserne soit le couronnement des études. Voilà ce qu'annonçait le maréchal Pétain. Et bien, il va continuer à faire de la politique. Tellement que il va intervenir même dans la politique extérieure française, alors qu'il n'attendait jamais d'interview, et que entre les deux tours des élections du scrutin pour le Front Populaire, entre le 27 avril, je ne me rappelle plus, et le 8 mai, enfin, entre avril et mai, c'est-à-dire entre le premier et le second tour des élections qui vont donner la victoire au Front Populaire, il accorde, pour la première fois de sa vie, une interview à un quotidien qui s'appelait Le Journal. Et là, il dit qu'il y a un grand danger qui menace la politique extérieure française. C'est le pacte franco-soviétique, et qu'un Français soucié des intérêts de la France ne doit pas permettre qu'à la France ait le moindre contact avec la peste soviétique. Donc le maréchal Pétain, qui, lorsqu'il sera au pouvoir, dira « Nous avons été battus parce que nous n'avions pas assez d'enfants, non, avec quoi, pas assez d'armes, nous verrons, et pas assez d'alliés », le maréchal Pétain refusait l'allié russe qui était tout prêt à nous aider. Le maréchal Pétain va en faire encore mieux, il va essayer un discours pour je ne sais plus quelle commémoration de Verdun, je crois, sous Blum. Blum sera obligé, il avait demandé naturellement de voir le discours qu'allait prononcer le maréchal Pétain, de couper une phrase. Car dans ce que voulait dire le maréchal Pétain, il y avait une phrase très curieuse, alors que Pétain avait été autrefois un de ses super patriotes qui disait attention à l'Allemagne. Voici que, en 1936, en juillet 36, hein, alors que l'Allemagne est le danger que vous savez, Pétain demande pourquoi les mains ne pourraient pas se tendre au-delà du Rhin. Deux peuples de vieilles civilisations sont faits pour s'entendre. Ils n'étaient pas faits pour s'entendre lorsque c'était Weimar. Et tout à coup, maintenant que c'est Hitler, Pétain ose dire ça. Blum est obligé de lui couper ce paragraphe. Colère de Pétain qui refuse le 14 juillet d'être aux côtés de Blum dans le défilé officiel, quoi, des troupes le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il refuse. En tant que maréchal, il était toujours là, bien sûr, c'était ce qu'il avait vu la rue en France, il va se trouver à côté de Blum. Mais voici maintenant deux documents. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose avant. J'ai oublié de vous dire que Gustave Hervé, qui était l'antimilitariste autrefois, qui avait dit, vous savez, en 1905, qu'il fallait planter le drapeau dans le cimier, et qui était converti au nationalisme en 1914, et qui dirigeait un journal qui s'appelait La Victoire, avait fait au début de 1936 une série d'articles qui se concluaient tous par « Il faut que Pétain prenne le pouvoir, nous voulons Pétain au pouvoir ». Et dans un de ces articles, Hervé disait prophétiquement « C'est lui qui acceptera de serrer la main que le chancelier Hitler nous tente en vain depuis 3 ans ». Signé Gustave Hervé, avril 1936. Et maintenant, voici les deux documents, c'est de chez Orly, qui les connaissait pourtant, a soigneusement caché dans son livre. Le premier document a été révélé par les Américains lorsqu'on a publié l'archive secrète de l'Albi-Lalustrasse. Le premier document est du 14 avril 1937. Le général von Faupel est le premier représentant officiel qu'Hitler a envoyé à Franco. C'est à Burgos. À ce moment-là, la guerre d'Espagne n'est pas terminée et Franco est à Burgos. Alors, ce 14 avril 1937, l'ambassadeur d'Allemagne, von Faupel, est présent à la ville de Strasbourg, dit « Une information importante vient de m'être communiquée par Sarah Nouchinière, qui était le ministre intérieur, si je me retombe bien, vous êtes à Tanger, enfin un des collaborateurs premiers de Franco. » Vous m'entendez, hein, ce que von Faupel est présent à la ville de Strasbourg, et qui dit « Je tiens de Sarah Nouchinière qu'actuellement, dans la clandestinité, se prépare en France, entre le maréchal Pétain et Pierre Laval, un gouvernement national. » On sait ce que veut dire le mot « gouvernement national ». Idée qui intéresse beaucoup le général Franco. Ça, premier document. Deuxième document, 18 mars 38. Celui-là a été révélé, toujours par des archives américaines, papier saisi en Italie quand les Américains sont entrés à Rome, publié par M. Marc Gallo dans son livre de 1970 qui s'appelle « Cinquième colonne ». 14 mars 1938. Cette fois, c'est Giobbe, je sais pas moi, G-I-O-2-B-E, Giobbe, je crois que je veux dire. Giobbe, qui est l'abbesse italien à Paris, le correspondant personnel de Mussolini à Paris. Giobbe a une correspondance directe avec le Duce, qui ne passe pas par Ciano, hein, pas par la valise, si ça passe par la valise, mais pas par les affaires étrangères, ça va directement au Duce. Le livre reproduit la photocopie du document, avec le graphique. Et dans le coin supérieur gauche, il y a le M de Mussolini en même temps, ça a été lu par le Duce. Ben, qu'est-ce qu'il disait donc, ce Diabé, le 18 mars 38, hier, 17 mars, disait-il, j'ai eu un entretien très secret avec le président Laval, qui m'a dit que la préparation de son gouvernement avec le maréchal Pétain est en très bonne voie. Là, vous avez donc deux documents, l'un de 37 et l'autre 38, indiquant de la manière la plus formelle qu'il y avait de l'accointance secrète entre Laval et Pétain pour faire de la politique intérieure et pour faire un gouvernement national, c'est-à-dire naturellement antisocialiste. Vous savez d'autre part que, vous ne savez pas, que le 18 avril 37, donc quelques jours après la défaite de Fautel, 18 avril 37, dans une correspondance privée de Pétain à Doumergue, Pétain disait à Doumergue, pourrons-nous un jour rétablir l'ordre? En avril 37, désordre, il y a un désordre à Paris. Si, il y a le gouvernement de Front Populaire, c'est en lui-même un désordre. Pourrons-nous jamais rétablir l'ordre sans faire couler le sang? Point de suspension, c'est-à-dire qu'il faut faire couler le sang, on le fera couler. Et enfin, le 10 octobre 38, à une de ses anciennes maîtresses, Mrs. Pardy, américaine, P-A-R-D-E-2-Z, Pétain écrivait, la politique intérieure en France doit changer sous peine de mort, mais les Français n'ont pas encore assez souffert. Vous avez entendu? La politique intérieure française doit changer sous peine de mort. Ben, quand il accepte d'entrer au pouvoir parce qu'il sait que la guerre est perdue, cet homme qui a annoncé publiquement, je n'ai jamais lu un seul journal de ma vie, sinon l'Action française, et qui décorera du Francisque d'or, M. Maurras, avec la dédicace que voici sur l'orgueil du discours au plus français des Français, le maréchal Pétain, qui connaissait bien Maurras et qui l'avait lu de près, devait se souvenir de ce Maurras à la page 556 de son enquête sur la monarchie avait écrit, faut-il éviter de se dire que l'ennemi intérieur pourra être un jour accablé de ses fautes et que nous pourrons profiter d'un instant de stupeur pour nous débarrasser de lui. Mais il était là, l'instant de stupeur. Les Français étaient commotionnés par la défaite, on allait pouvoir faire la révolution nationale. Je n'ai pas fini. Il y a quelque chose de bien plus grave dans ce que j'ai à vous raconter. Et qui pose devant moi encore aujourd'hui un problème. Je sens bien comme je voudrais le résoudre, mais c'est tellement affreux que je n'ose pas. Alors je vais vous soumettre les faits. Le 1er mars, je crois, attendez que je dise ça avec précision. Le 1er mars 1935, dans la revue des Deux Mondes, Pétain avait, 1er mars 35, dans la revue des Deux Mondes, Pétain avait publié un article extrêmement important sur les problèmes militaires. Il avait confirmé ses dires le 8 avril 35 dans le discours à l'école de guerre. Nous possédons les deux textes. Ces textes sont très beaux. Et on peut vraiment dire que ce très vieil homme n'était pas sclérosé. Hein. Parce que la grande idée de Pétain là-dedans, c'était de dire, attention, ne commettons pas dans la prochaine guerre inévitable, disait-il. Ne commettons pas l'erreur que nous avons commise en 1914. Nous avons été battus au début de 1914 parce que nos généraux faisaient la guerre de 70. Et il ne faut pas que dans la prochaine guerre, nous fassions la guerre de 1914. Tout a changé, disait-il. En particulier du côté des chars et du côté de l'aviation, il y a des transformations telles que le visage de la prochaine guerre ne ressemblera en rien au visage de la guerre ancienne. Les chars sont capables, disait-il, de décider du sort d'une guerre. Quant à l'aviation, si elle est jointe à l'infanterie pour essayer de percer les défenses de l'adversaire, elle peut donner des développements imprévisibles. Vous entendez, c'est Pétain qui dit ça en mars et avril 35. Bravo! Or, le même maréchal Pétain, après avoir refusé la permission à son ami le général Chauvineau de publier en 1935 un certain livre dont Chauvineau lui avait donné le projet, va autoriser, non seulement autoriser Chauvineau à publier son livre, mais va faire une préface à ce livre qu'en 1935 Pétain avait refusé. Ce livre du général Chauvineau va paraître au printemps 39 et s'appelle « Une invasion est-elle encore possible ?» Pour conclure, aucune invasion n'est possible, car la faillite des chars est éclatante. Quant à l'aviation, elle ne peut avoir aucun rôle. Elle ne peut que surveiller l'arrière. Pétain préface un livre monstrueux, dont il sait qu'il est monstrueux. Puisqu'il renverse ce que Pétain lui-même avait dit en 1935, et cependant, en 1939, il le bénit de sa propre autorité, de séduire aux Français pour leur dire « Les chars, ça ne compte pas, l'aviation, ça ne compte pas. » Alors ma tentation, c'est de me rappeler la phrase que je viens de vous dire à Mrs. Pardy, où le 10 octobre 38, il dit « Les Français n'ont pas encore assez souffert. » J'en viendrai donc à conclure que le maréchal Pétain lui-même souhaitait un désastre militaire de France afin de pouvoir faire sa politique. Ce qui ne veut pas dire dans ma pensée que c'est un homme monstrueux. C'est un homme qui est fasciné par la politique intérieure et qui se persuade en conscience
que la France est détruite par le Front populaire et par le socialo-communisme. Un homme qui dit le seul salut de la France, même s'il faut en passer par ces choses affreuses, qui est un désastre, le salut de la France dans un renversement politique. Je vais faire ma politique à moi, qui est la politique de Maurras, la politique de Salazar. Je vais faire cette révolution nationale, qui en ces termes même avait été demandée deux fois en 1936 par M. Caxot dans Candide. Et qu'est-ce que c'est que la révolution nationale? C'est l'application des idées de Maurras. Alors on va le voir, en effet, qui va obtenir rapidement de l'Allemagne cet armistice qui comble des vœux d'hiver, parce qu'il y a maintenant un gouvernement français sur une petite partie de la France qui va faire la politique de l'occupant, ce qu'il n'a pas pu obtenir ailleurs, Hitler. Dans toutes les autres nations qu'il a occupées, les gouvernements sont partis à l'extérieur. La Hollande est à l'extérieur, les Belges sont à l'extérieur, les Yougoslaves en 1941 sont à l'extérieur, le gouvernement polonais est à l'extérieur. Seul le gouvernement français, grâce au maréchal Pétain, va rester là pour faire lui-même la politique de l'ennemi. Quel prodigieux avantage, disait Hitler à Mussolini. Il dit, mais il nous épargne 15 divisions, Pétain, en se mettant à ma disposition. Bon, alors cet armistice est fait, il s'agit maintenant d'enverser la République, on le fera grâce à Michel Lavat. Lavat est arrivé à Bordeaux où j'étais, où je l'ai vu tous les jours travailler, à partir du 15 juin. On va obtenir que la Chambre elle-même accepte que plein pouvoir soit remis au maréchal Pétain, plein pouvoir de faire une nouvelle constitution. Alors c'est le renvoi du président Arduic, oui, le malheureux Lebrun, quoiqu'il ne soit jamais annoncé comme démissionnaire, sera pratiquement démissionné, puisque le maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, décide, on sort une nouvelle constitution, que j'organiserai moi, puisqu'il dit « nous, Philippe Pétain, maréchal de France », en provenant un terme de monarchie. Et comme dernière conclusion, comme dernière forme, un dernier détail que je vais vous apporter, c'est une phrase que je trouve extrêmement éclairante, que M. René Benjamin, fidèle disciple du maréchal, nous rapporte avec compunction. Il dit, j'ai entendu le maréchal dire devant moi en 1841, le régime des successions en France était bien plus grave que la défaite. Voilà, monsieur, j'ai fini ma petite démonstration. Alors, question, hein, une demi-heure, pas trop plus, parce que je suis un peu claqué.
Oui, disons 11h moins le quart au plus tard.
Voilà, d'accord. Ah, monsieur.
Donc, aujourd'hui, pour le coup, le maréchal Pétain connaît une dissonance. La meilleure preuve, c'est que les Marseillais dissuadent les communistes, les protégés, qui nous ont mis au Paris-Esprit, c'est un ancien collaborateur de son régime. Et puis, récemment, il est sorti dans le livre que l'on était tous beaux, qui était bougé. Au procès de Pétain. Alors, après tout ce que vous venez nous raconter, tout ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le bouquin de Robert Paxton, qui démontre, que Pétain, que ce n'est pas Hitler qui avait cherché la collaboration de Pétain, mais disons carrément Pétain et tout artiste qui sont venus l'apporter sur un plateau, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, en pleine conscience, que la condamnation à mort que Pétain a encouru pour trahison nationale était tellement justifiée et non pas une vaste vengeance comme l'estime, je ne sais pas quel ministre, l'extrême droite, aussi bien qu'en France, des socialo-communistes, dont le régime Pétain avait momentanément l'esprit à puissance.
Je ne vous suivrai pas sur la politique contemporaine. Je me refuse ici, en privé, je ne le fais pas. Mais je me refuse dans une conférence à parler de politique contemporaine. Je vous dirai simplement que mon avis sur Pétain, vous l'avez clairement entendu, que le livre de Petrus Fort que je viens de lire est une plaisanterie, c'est fait de pièces et de morceaux. C'est une protestation contre la condamnation du maréchal Pétain, où il tait tout ce que je vous ai dit. Naturellement, tout ce qui est contre Pétain est si grave que Petrus Fort ne le dit pas. Il y a très certainement actuellement en France un mouvement pour la réhabilitation de Pétain. Il ne tient pas simplement à la personne des Orly, mais le maréchal Jean lui-même avait dit qu'il souhaitait que Pétain soit enseveli à Douaumont. Si vous voulez mon avis, que vous avez déjà deviné, la condamnation à mort de Pétain était parfaitement justifiée, mais j'aurais souhaité, comme De Gaulle dirait, qu'il ne fût pas exécuté. De même que j'aurais bien voulu que Brasillac ne fût pas tué. Brasillac avait dénoncé des quantités de Français, il avait du sang sur les mains. Et comme je ne suis pas partisan de la peine de mort, j'aurais désiré qu'il fût en prison à perpétuité peut-être. Quant à Pétain, il me semble qu'il est impossible de nier que Pétain a fait une politique que j'appelle anti-française au nom d'une certaine idée de la France qui n'était pas celle de la gauche. Je répète, Pétain n'est pas un homme qui aime son pays, au contraire, il aime son pays. Et là, la condition, ce pays est en train de mourir à cause d'une mauvaise politique intérieure. Il accepte l'idée assez affreuse, et il y collabore même, de faire passer son pays à travers le désastre pour pouvoir le sauver par sa politique intérieure. Néanmoins, dans les faits, pratiquement, Pétain a été quelqu'un qui a collaboré à la défaite. Je crois qu'un Français qui a collaboré à la défaite méritait un châtiment. Et c'est pour ça que j'estime que sa condamnation était parfaitement légitime. Je vous dirais même, entre parenthèses, que je... Enfin, vous sentez bien la version que j'ai pour lui, mais la version que j'essaye de contrôler. J'ai beaucoup plus d'aversion pour Pétain que pour Laval. Parce que Laval était un homme qui n'avait pas d'arrière-pensée politique. Laval considérait la défaite comme un pétrin, dont il fallait essayer de tirer la France, par des moyens appropriés très bas, où il s'est salissé les mains, où il a osé dire à l'Allemagne, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Pourquoi ? Il essayait de faire de son mieux, bassement et assez ignoblement, et sans sentiment de l'honneur, pour tirer les Français de ce pétrin. Tandis que le maréchal Pétain, qui conservait sa forme apparente de grand Français, de grand patriote, est un homme qui mentait aux Français en leur disant, vous n'avez pas eu assez d'armes. Alors que nous savons aujourd'hui que le Front Populaire avait armé suffisamment l'armée française. Vous savez que le nombre des chars était égal, chars français et chars allemands, 3000 de chaque côté. Et que grâce au Front Populaire, 1500 de nos chars étaient supérieurs comme puissance de feu et comme blindage aux chars allemands. Seulement, Maréchal Pétain lui-même avait désavoué l'idée de Gaulle de faire des divisions cuirassées, souviens que nos malheureux chars étaient éparpillés partout. Bien, Pétain, au profit de sa politique intérieure, disait « La faute est au Front Populaire, la faute est au fronteur de guerre, je vais les faire passer en cours de rion. » Vous savez bien, il les avait même condamnés d'avance, de peur qu'ils ne fussent pas condamnés. « La faute est à ceux qui n'ont pas préparé militairement la résistance, enfin la défense nationale. » Alors que lui, quand il avait été au pouvoir, n'avait pas préparé la défense nationale et qu'il avait osé préfacer l'abominable livre de Chauvineau qui conduisait directement les Français, s'ils le prenaient au sérieux, à se faire écraser. Alors c'est pourquoi entre Pétain et Laval, je dis le plus coupable, à mes yeux, et Pétain qui jouait dans l'artifice de son personnage du reste assimable, il se présentait bien. Le cheval se présentait déjà pas bien. Je me rappelle quand j'ai été présenté à lui, c'était sur les marches d'un escalier de l'hôtel de ville, j'étais lié, lui, parce que je connais très, très bien Marquet, le maire de Bordeaux. Et Marquet venait de donner à Laval son cabinet de travail. Courtoisement, Laval avait dit non, je ne veux pas prendre le cabinet du maire, je prends le cabinet à côté. Puis comme Marquet descendait l'escalier et que je montais, je me suis pas présenté de Laval. Marquet m'a présenté, et bien, Laval était très sale. Pourtant, il était descendu au Splendide, où il avait un hôtel réservé. Je crois qu'il avait dormi habillé, parce qu'il n'imaginait pas son costume, était affreusement flippé. Il avait la fameuse cravate blanche, qui n'était pas blanche du tout, il avait une chemise très sale. Et avec ça, une poignée de main molle, une peau huileuse, avait un air de cigale, présentait mal. Il y avait dans son regard quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai vu le regard du maréchal, il n'y avait pas de regard. C'était un homme dont on avait l'impression qu'il y avait derrière les yeux apparents d'autres yeux cachés. Et que ceux qu'on voyait n'étaient pas si vrais, ils ne disaient rien. C'était glacé. Vous savez ce que le père Laval, un salaud, c'est entendu, avait une certaine gentillesse dans le regard, une humanité dans le regard de cet homme. Il ne me révoltait pas, alors que j'étais indigné à l'égard du maréchal Pétain. Voilà ce que je peux vous répondre. On a un peu trop l'argent. Quelque chose qui soit moins polémique, si c'est possible. Alors, sûrement, il y a des objections par là.
Il n'y a que le problème de la conduite de la guerre. Pas, au fond, l'explication que vous venez de démontrer devant vous, une explication qui a été avancée immédiatement après la défaite. On a parlé de trahison. L'armée française étant la meilleure du monde, Verdun, etc., c'est donc une trahison. Et puis, c'est une explication qui revient maintenant, disons, en profondeur. Mais entre-temps, il y a eu l'explication militaire. Alors, on a dit que l'armement français était insuffisant. On a dit que le commandement français avait été mal inspiré, ou en tout cas mal informé, qui n'avait pas d'aussi bonnes informations que les Allemands, et que, en tout cas, disons, le changement de manœuvre, parce que je crois que, d'après le dernier livre qui vient de paraître, enfin, qui est important sur toutes les forces hitlériennes, enfin, le personnage hitlérien, le livre de fait, il semble que le changement de plan stratégique a eu lieu assez peu de temps avant les opérations. Au fond, les Allemands, semblait-il, voulaient refaire l'opération, le fameux plan Schlieffen, aller marcher sur Paris pour essayer d'atteindre immédiatement la France au cœur. Et puis, il y a eu un plan Manstein qui avait été refusé par le haut état-major allemand, mais que Hitler a repris à son compte et a imposé au commandement allemand, qui, lui, justement, était celui qui a été exécuté lors de cette fameuse manœuvre en faucille qui a complètement coupé le gros des troupes françaises. Alors, est-ce que là, vraiment, les Français ont été abusés et qu'en était-il de l'armement, de la qualité de leur commandement?
Je vais vous dire que je suis là-dessus, hein, je ne suis pas prêt. Car la politique intérieure, je la connais bien. Les affaires militaires, je les connais moins bien. Pour l'armement, donc je viens de vous le dire, ces chiffres sont fournis par Henri Michel.
Henri Michel est un esprit beaucoup moins violent que moi, beaucoup moins passionné. Et il est président de la commission d'études actuelle des origines de la Deuxième Guerre mondiale, histoire de la Deuxième Guerre mondiale, président de ça. Il a fait un livre qui s'appelle Vichy en 40, années 40, il a fait La drôle de guerre, et c'est lui qui donne maintenant les détails les plus incontestables, et qui, que personne ne réfute plus, sur les chiffres du matériel. Je viens de vous parler des chars, égalité. Je ne vous ai pas encore parlé de l'aviation. L'aviation de chasse française plus l'aviation de chasse anglaise était égale à l'aviation de chasse allemande. Mais, du côté des bombardiers, malheureusement, infériorité considérable des bombardiers français. Là, un détail tout à fait nouveau, que je tiens du général Jauneau, commandant de corps aérien, qui me l'a écrit, qui m'a autorisé à le publier dans mon livre. Daladier savait l'insuffisance de l'armement français du côté des bombardiers. Et il avait obtenu, le gouvernement, la chambre plutôt, une commande de 1000 bombardiers aux États-Unis. À fournir dans les plus basses délais. C'était extrêmement coûteux, il ne s'agissait pas de les lier sur le fric. Le général Jauneau m'a dit, j'ai la conviction et j'ai vu, que les commandes n'ont pas été faites. Que le haut état-major aérien n'a pas tenu compte de l'argent du crédit mis à disposition par Daladier. Comme si, à l'état-major supérieur de l'air, on ne tenait pas à avoir ces 1000 bombardiers indispensables pour l'égalité. Voici, bon, char et aviation. Les généraux, maintenant. Vous avez entendu ce que je vous ai raconté sur Hans-Siegel. Je me demande si le général Korap, qui c'est Korap, bon, nous revenons à notre histoire du 10 mai, hein. D'un côté, à Sedan, il y a Hans-Siegel, et de l'autre côté, dans l'Armidi, qui fait mouvement entre la Belgique, c'est Korap qui va nous commander sur un fond d'environ 16 km. Ben, ce Korap va être également enfoncé. Et vous vous rappelez peut-être que Paul Reynaud va faire un discours terrible le 26 mai à la Chambre des députés pour dire qu'il a incriminé deux hommes, le roi Léopold III, qui venait de capituler et qui ne pouvait pas faire autrement. Son armée anglaise avait été, quand belge, avait été totalement cernée, elle était promise au massacre s'il ne se rendait pas. Bon. Alors Breno, qui cherche des excuses, dit c'est la faute à Léopold II. Et c'est la faute à Korap. Pourquoi se tait-il? Pourquoi ne dit-il rien à Hans-Siegel? Hans-Siegel semble intouchable. Or, c'est Hans-Siegel qui est de beaucoup le plus coupable. Et je ne sais pas si Korap a été coupable. Il a été enfoncé, lui aussi, Korap. En tout cas, Korap est dans une zone qu'il ne connaît pas, puisqu'il sait se faire mouvement à son armée à travers une région belge, qu'il n'a pas pu examiner d'avance, parce qu'il s'est arrêté sur une région française, à Sedan, donc il aurait dû veiller à la défense. C'est ce qu'il n'a pas fait. Bon, alors je ne peux pas vous dire si les généraux français ont été de bons ou de mauvais tacticiens, mais je vais vous apporter un fait nouveau, enfin, ce qu'on ne connaît pas assez. Gamelin est liquidé, hein, on va le balancer, et de même qu'on fait appel au maréchal Pétain, en même temps, Paul Reynaud fait appel à un nouveau chef militaire qui est le très vieux Végan. On se dit que ces deux noms, Pétain, Végan, combattants de la guerre de 14-18, vainqueurs de la guerre de 14-18, vont réarmer le moral français. Il s'est dit, Reynaud, mais j'en suis pas sûr. Je crois déjà que Reynaud avait l'idée de faire l'armistice et qu'il voulait le filer au maréchal Pétain. Enfin, Reynaud peut se dire, les Français vont se rappeler de 1914. Ils se rappellent qu'au mois 2 de 1914, la guerre semblait perdue. Hein, et que c'est le miracle d'un âme qui s'était produit qui avait repris la situation. Alors peut-être, en présence de ces deux noms prestigieux, Pétain d'un côté et Végan de l'autre, le moral français va se regonfler en disant « Ces deux vieux généraux victorieux vont peut-être trouver la solution. » Et voici ce que je vais vous dire. Lorsque Gamelin apprend qu'il est liquidé, il laisse des instructions. En disant « Voilà ce que je crois, moi, ce qu'il faudrait faire. » Il y a une certaine instruction dont je ne suis pas sûr du chiffre, mais je vais vous dire ça dans mon livre. Je crois que c'est l'instruction dite numéro 12, qui indique le plan que lui, Gamelin, conçoit. Et le voici, ce plan. Il faut essayer de rameuter tout ce que nous pouvons encore, malgré les pertes énormes de matériel que l'on a faites à Dunkerque, de rameuter tout ce qu'on peut sur une ligne de la Somme et de l'Aisne. Là, on va mettre tout ce qu'on pourra d'armement et de bonnes troupes. Et peut-être que là, on est capable d'arrêter la deuxième vague de la Marne. Ça, c'est donc le 16 juin, lorsqu'il est limogé et qu'il laisse cette instruction. Avec ceci, qui est dans le texte que j'ai vu, c'est une question d'heure. Où est-ce qu'il était, Végan? Il était au Levant. Il dirigeait les troupes françaises du Levant. Il met un certain temps, même par avion pour arriver, je crois qu'il arrive de 18 seulement, et il mettra 5 jours à faire des inspections à droite et à gauche, pour finir par conclure que le plan de Gamelin est le seul applicable. Seulement Gamelin avait dit que c'est une question d'heure, et Végan a perdu 5 jours. Je ne peux pas vous dire si on aurait mieux pu tenir le coup, si on avait pu appliquer immédiatement le plan Gamelin, je ne le pense pas. J'ai l'impression que nous avions perdu tellement de matériel dans le Nord, qu'il n'y avait pas moyen de lutter contre le matériel allemand, qui devenait à ce moment-là énormément supérieur au nôtre. D'autre part, on avait perdu des tas d'hommes et on va se battre à 1 contre 3 ou 1 contre 5. Je dois ajouter que dans ce combat du 6, car les Allemands ont attaqué le 6 juin, du 6 au 8 juin, pendant 48 heures,
les troupes françaises vont se conduire infiniment mieux qu'elles ne s'étaient conduites devant Sedan. Il n'y aura pas de panique. Il y a des gens qui se sont tués sur place. La plupart des officiers sont très courageux. Il y aura ensuite l'affaire de Saumur, que vous connaissez, où les cadets de Saumur vont désespérément et héroïquement. Ça ne sert plus à rien, enfin, se faire tuer sur place. Vous savez, l'armée française, à ce moment-là, est vraiment enfoncée parce qu'elle ne tient pas physiquement, mais le moral s'était raffermi. Tandis que la grande idée que je désire que vous reteniez de mon exposé ce soir, c'est que le moral de l'armée française était prodigieusement atteint en 1940, qu'une partie des officiers ne voulait pas faire cette guerre, et que si le désastre s'est produit, il tient au moins autant à des raisons psychologiques qu'à des raisons proprement militaires et stratégiques.
Monsieur.
Ça, je sais bien. Et que je peux vous répondre, je suis navré de ce que vous dites. Et je sais bien. C'est une technique militaire. Je sais très bien qu'il y avait eu des exemples frappants de la façon dont les Allemands conduisaient la guerre en Pologne. On les avait vu utiliser les chars par division cuirassée, utiliser les avions par Stuka, et notre état-major, Gamelin aussi, n'en a pas tenu compte. Il aurait dû faire à ce moment-là des divisions cuirassées, mais il y avait une grande opposition dans l'armée, Végan, quand il en avait parlé. Savez-vous ce qu'il avait dit? Il avait dit des divisions cuirassées, ça sera des soldats mécaniciens. Les mécaniciens, c'est de la graine de communistes, parce que quand je ne veux pas des divisions cuirassées, ils font des divisions communistes. Voilà ce qu'il avait dit, ah, si vous voulez, il y a des raisons comme ça. Bon, alors c'est vrai, je ne peux que vous dire que c'est vrai, il est navrant que l'état-major français n'ait plus aucune leçon, parce qu'il avait eu sous les yeux un petit peu en Espagne et énormément en Pologne. Eh bien, il n'a tiré aucune conclusion. Je ne suis pas là pour faire le procès des militaires, j'ai respecté beaucoup, mais enfin, je regarde, ça a été assez navrant. Et puis, encore 7 minutes, oui. Oui, monsieur. C'est parce que je suis convenable que je dis ça. Mais non, oui. Bon. C'est très... Alors, c'est une encourageant, ça. Je sais. Je suis militaire. Bon. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais attendez, vous avez autre chose à dire? Je vais répondre là-dessus. Et puis, vous avez autre chose à dire? Tout de suite, vous l'avez compris tout de suite, vous? Moi pas, hein. Vous avez compris tout de suite ce que ça signifiait, le Pajan Mosé? Vous n'avez pas été scandalisé? Moi, j'étais commotionné d'abord. Ah oui, bien sûr. Vous êtes 17, oui. Continuez. Quoi donc? Oh, ben ça c'est autre chose, hein. Je ne suis pas stalinien pour un chou, mais je comprends la politique de Staline. Oui. Mais vous m'amenez à la politique contemporaine que je ne veux pas faire. Je voudrais vous répondre sur le Pétain 34, là. J'y vais. Eh bien voilà, moi aussi, hein, j'ai cru ça, et je l'ai même cru, que Pétain avait manifesté un drôle d'esprit physique en 1934, ministre de la guerre, et ayant accepté une réduction de sa vie militaire. Puis je me suis aperçu qu'on n'avait pas le droit de lui jeter ça à la figure parce que le gouvernement d'Oumer lui avait décidé un abattement de 10% de tous les crédits. Vous en donnez tous les crédits. Alors Maréchal Pétain avait été obligé lui aussi de diminuer les crédits militaires. Et voilà qu'il s'était rattrapé parce qu'il avait remarqué que dans les crédits 1933, tout n'avait pas été employé. Si bien que, utilisant un résidu de crédit de 1933, il va en 1934 faire pratiquement augmenter quand même, très faiblement, le budget des armées. Mais il est obligé de se plier à la loi d'Oumer qui a dit 10% d'abattement sur tous les crédits. Je ne crois pas qu'on puisse en vouloir là-dessus.
De même que, dans le livre que je suis en train de terminer, je dirais, je crois que c'est une fausse querelle que de lui faire l'objection que vous faites, et que c'est une fausse querelle aussi de citer, comme on le fait tout le temps, une parole de Pétain devant la commission des défense nationale du Sénat, où Pétain aurait dit, les forêts des Ardennes sont impénétrables à une offensive allemande. Virgule, moyennant des travaux de défense appropriés. Et on ne cite jamais ce moyennant des travaux de défense appropriés. Vous pensez, si M. Zorni jette la fille en disant, mais Pétain n'a jamais dit qu'elles étaient impénétrables. Elles étaient impénétrables si on y faisait des défenses. Là aussi, puisque je tiens à être objectif, je dirais, ce grief que l'on faisait à Pétain de dire les forêts d'Ardennes impénétrables est un faux grief, puisqu'il avait dit, à condition qu'on y fasse des défenses appropriées. En revanche, je suis bien d'accord avec M. Chapéro pour dire que Pétain et son autorité qui est la sienne devait demander en 1935, en 1936, aux divers gouvernements, de multiplier les dépenses militaires, de préparer des chars. Il s'en est bien gardé. Il n'a rien demandé comme renforcement. Et ce que j'ai oublié dans l'évolution politique de Pétain, c'est très intéressant ça. Lorsque Pétain refuse d'entrer au gouvernement de la défense nationale en 1939, il dit « Je ne veux pas me trouver aux côtés de M. Herriot ». Bon, il maîtrise M. Herriot. Or, savez-vous qu'en juin 1935, il avait accepté d'entrer dans un ministère socialiste qui sera renversé le jour de sa présentation à la Chambre, qui s'appelait le ministère Buisson. Parce que cet étrange socialiste Buisson avait annoncé, et nous le savons par des amis de Pétain, dès que je serai à la Chambre, dès que je serai président du Conseil investi, je mettrai la Chambre en congé, sine die. On ne peut pas faire une politique sérieuse avec ses parlementaires, parce que disaient les députés socialistes. Ça ravissait Pétain. Et surtout que Pétain avait obtenu cette chose inouïe, d'avoir deux portefeuilles en même temps dans le gouvernement socialiste. Il avait le portefeuille de la défense nationale, pas de la guerre, il avait le portefeuille de l'éducation nationale. Ce qui lui permettait de faire ce qu'il voulait sur tous les instituteurs dont il avait l'horreur et l'épouvante. Et bien on ne le cite jamais. Il faut savoir que Pétain avait accepté d'entrer avec Herriot, dans ce gouvernement socialiste à la condition qu'il puisse y casser les reins des instituteurs. Pas si intéressant du point de vue politique intérieur. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point. Ah oui, Staline, bien sûr que je suis anti-stalinien. M. Zafiro voudrait que je fasse une parenthèse sur la politique de Staline. Je crois que vous devinez à peu près qui je suis. Eh bien, je ne suis pas prêt d'admirer Staline dans sa politique intérieure. Mais je dis que Staline, en tant que chef d'État, responsable d'un grand État, avait fait en 1939 ce que n'importe quel État soucieux des intérêts de son pays aurait fait à sa place. C'est la pensée de Churchill et c'est la pensée de Gaulle. Encore quelque chose? Oui, monsieur.
Donc, il semble que sans Garros, on nous a constaté qu'une guerre, c'est pas notre résultat sur l'évolution de la suprématie aérienne.
Enfin.
Et j'étais surpris par les quelques indications statistiques que vous avez données, parce que j'ai quand même là un problème qui se pose. Je crois que le ministre de l'Aéronautique était à cette époque, Pierre Paul.
Je crois que oui.
Il semblait qu'il y avait un décalage, une proportion quantitative. L'Allemagne qui produisait à cette époque 1000 avions de combat par mois et les Français ne faisaient que 30. Donc, il semble que Pierre Paul, venant de la gauche, et lui, dans l'aéronautique, a fait un effort de guerre, alors que la construction du temple, en parlant de Renault, Schmitt, etc., venant du milieu d'affaires de la droite, des banques, etc., eux auraient poussé les efforts de guerre. Alors là, je m'entends très bien.
Je ne sais pas de vous tirer les chiffres que vous me donnez, de 1000 d'un côté et 30 de l'autre. Mais ce que je sais, c'est le livre, encore secret, de ce monsieur Jauneau, général de commandant de corps aérien Jauneau, qui est un livre un peu confus, qu'il n'arrive pas à publier, il m'a dit tirer dans ce que vous voudrez comme élément, et c'est un homme conservateur, et qui a beaucoup d'admiration pour Pierre Scott. Ce monsieur Jauneau, ce général Jauneau, dit Pierre Scott a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour l'aviation française, et il a été détesté par la droite parce qu'il était très républicain, et je crois que c'est tout rare. Le communisme, c'est trop dire, enfin, il n'était pas aussi le communisme. Alors, il y en a beaucoup. Je vous apporte le témoignage de ce général de corps d'armée aérien disant que Pierre Cotte a bien travaillé pour l'aviation française. Je ne sais pas. Oui, allez-y.
Je me souviens d'avoir été impressionné par un appel désespéré quelques jours avant la fin de la guerre de Paul Renault, précisément 10 ans.
On a passé l'avion. Oui. Oui, oui, les 1000 avions dont je vous ai parlé. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu, et je ne sais pas s'il manquait de moyens ou si la construction aéronautique piétinait. Je ne peux pas bien entendre là-dessus.
En tout cas, ces chiffres que vous avez donnés, donc, qui tendent à démontrer une certaine égalité de l'armement.
Sauf pour les bombardiers.
soit pour les bombardiers, et puis aussi sur le plan de l'artillerie, je crois que c'est
même ça. Ah oui, mais attendez, le canon anti-aérien, où nous sommes, les Français, très inférieurs en canon anti-aérien.
Alors il semble, ces chiffres-là sont repris, par exemple, maintenant par FES, pour qu'ils se basent sur les sources allemandes.
Donc, et qui donnent à peu près ce que...
Un nombre de chars à peu près. Oui,
oui. J'ai un prix. Sur quoi, sur? Oui, oui, je sais. Je sais pas ce que c'est. De quelle nationalité c'est là? Stella?
Stella.
Ah, Stella, oui, avec un H, c'est Stella, oui. Oui, tout à fait. Ah oui. Oui, oui. Je sais. Je sais où t'es, je connais. En clair que? Que? Non, c'est un fait nouveau. On s'arrête? Moi, j'ai envie de m'arrêter. Hein, bon. Merci bien. Merci à tout le monde. Hein.